Ouais, non, ça a l'air bon.
La transhumance, c'est sûr comme une fréquence. Nous sommes en direct de Biarte pour la transhumance. Nous sommes le samedi 6 juin. Donc début de la transhumance qui vont partir du côté, là ils partent du côté du col du Saraillé. Donc voilà, là on arrive tout doucement auprès des festivaliers
qui regardent les vaches, qui prennent les vaches en photo. Voilà, on entend les cloches hein, derrière, ça sonne, hein, putain.
Hein ?
Bling, 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 bling.
Ouais, ça sonne, on va enregistrer une vache.
Salut. On entend déjà là. Il y en a quelques-unes. Hein. Il y en a quelques-unes. Voilà. Continue.
Donc on peut entendre les grosses cloches des vaches qui s'en vont joyeusement vers l'estive de la vallée de Liers. Là, elles empruntent le chemin des diligences pour longer le chemin, pour sortir après au niveau... Ils ressortent à quel niveau après ? Au chemin des diligences.
Je crois qu'ils repartent. Après au. C'est où là-bas? C'est.
Après ils vont prendre la vallée de Liers.
Voilà, ouais, ils montent à Liers, ouais, direct voilà. Par là. Après ils rejoignent la route, quoi.
Ils rejoignent la route. On peut les accompagner un petit peu.
Peut-être on va suivre ouais, un peu.
On peut suivre.
Alors, essayer, se passe.
Essayer d'attraper un éleveur ou deux. Pour
peut-être.
Qu'ils nous parlent.
Voyons. Il y a du monde, hein.
Il y a du monde, ouais. Il y a du monde. Il y a la bénédiction.
Aussi, ouais.
Du prêtre.
De ma
du curé, je veux dire.
Allez, allez. Peut-être, voyons, on va voir, il y a le maire, ici à côté.
On va attraper monsieur le maire de Biarte.
Voilà.
Voilà, c'est la radio comme une fréquence, on a la radio de Massat. On est arrivé, bonjour.
Ouais,
bonjour
salut.
Monsieur le maire.
Salut.
Comment allez-vous?
Voilà. Aujourd'hui, tout va.
Tout va?
Tout va.
Ah, pourquoi?
À 6h30, il fallait se lever, tout va.
Ah, c'est bien ça.
Les bénévoles, 6h30, ils étaient là pour préparer le petit déjeuner, tout va. peu après, le monde est venu, les officiels sont venus, tout va.
Tout va.
On a mangé.
Tout va.
Le petit déjeuner des éleveurs, tout va. Il y avait du saucisson, du fromage, du jambon. Du vin rouge, encore mieux.
Donc il faut oublier d'être végétarien à ce moment-là.
C'est quoi végétarien?
Ah oui, c'est vrai, c'est quoi?
Ceux qui ne mangent pas de viande, ça doit être ça.
Ouais, bah, c'est vrai. Et bah, une pensée pour les végétariens, je vais peut-être y penser l'année prochaine, parce qu'il y en a eu quelques-uns qui m'ont dit « ouais ». Il n'y a pas trop de légumes ici.
Donc là, on a vu que les vaches avaient pris le chemin des diligences. Et elles vont ressortir au niveau d'où?
Bon, elles ressortent au bout, au centre équestre. Il y a la première partie monte au Gouttetz et l'autre partie va sur Liers. Donc c'est deux... Ben, d'un côté, il y a les Limousines et sur Liers, il y aura les Gascognes.
Voilà. D'accord, ok. Et il y a combien de vaches en tout, vous savez?
Oh, ben, entre 100 et 150.
Ouh, oui, pas, mal, hein.
Pas mal.
Pas mal.
Et
pas mal.
Ben, c'est une belle transhumance parce que à un moment donné, on croyait qu'il n'y aurait plus de transhumance. Ben, les éleveurs, l'association de la transhumance du pays massatois a fait en sorte qu'ils ont relancé les éleveurs. Et ce qu'on espère, c'est qu'avec l'AFP, on va avoir encore plus d'éleveurs chaque année.
Ah bien, oui.
D'accord. Eh bien, merci, monsieur le maire. Nous, on va aller faire une petite balade avec les vaches et interroger quelques éleveurs pour avoir...
Et n'oubliez pas que après la randonnée du Gouttetz, là-haut, il y a le pot des éleveurs. Hein.
Et qui est à quelle heure?
Après la randonnée, ça dépend des randonneurs et ça dépend des vaches.
D'accord. Je sais pas. Donc du côté de 4h, 16h par là?
Je pense que à 13h, 14h, ce sera.
13h, 14h,
voilà.
Parce c'est l'arrivée.
Après, il va y avoir un marché, c'est ça aussi, un marché des artisans.
Ah, oui. Et en plus, on a fait ça avec l'association Aracroc. Là, Aracroc, c'est génial parce qu'ils ramènent les producteurs locaux, les transformateurs et les vendeurs de produits de marché, quoi. Donc, et surtout, là, on va faire goûter au marché paysan, on va faire goûter la viande de pays que chacun pourra acheter chez le producteur local et se fera griller sur des planchas. Donc, c'est vraiment le pays qu'on fait vivre, quoi.
D'accord.
Circuit
donc,
court, mentalité... large et pas courte,
hein, et
pour faire vivre le territoire.
D'accord.
Voilà.
Eh bien, sur ces très jolis mots de fin, merci monsieur le maire,
on va
continuer.
Et ce soir, la fiesta avec les éleveurs et à Biert.
D'accord. Mais toute la journée, on redira un peu le programme de la journée et tout sur la radio.
Parfait, sympa.
Allez, cool. Merci monsieur
le
maire.
Ciao.
Au revoir.
Bonne journée. Oui, on va peut-être s'arrêter là pour enregistrer.
Ouais,
ouais. Ça fait une bonne intro, là.
Oui, c'est une bonne intro.
On est reparti, on est en direct encore, de nouveau. Voilà, c'est la transhumance, vous écoutez comme une fréquence. Il y a 3 motos, 4 motos qui viennent d'arriver. Là, on a plusieurs stands devant. Il y a de la bouffe, il y a des fraises là-bas, il y a Racroc qui est derrière, il y a encore d'autres éleveurs là-bas qui font de la viande. Il y a de la viande, il y a de la bière, il y a un peu de tout, les chiens s'engueulent, bon, ça on a l'habitude, ça va. Mais après, donc du coup, on a un premier stand ici, où apparemment on parle des chiens de troupeau. Donc ça sert à quoi un chien? Ben voilà, ça peut servir à garder les bestioles aussi. Donc le pôle chien de protection des troupeaux, voilà, la pastorale des Pyrénées. On est devant le stand, la Biert. Une équipe technique, accompagnement, formation collective. Donc on peut peut-être aller interviewer quelqu'un. Bonjour.
Bonjour, voilà, on est une radio web. C'est la radio de Massade, comme une fréquence. Est-ce que vous acceptez de faire une interview pour notre petite radio sur votre stand, sur les chiens et voilà quoi. Vas-y, Marius, je te laisse l'interview. À toi de.
D'interviewer, qu'est-ce qu'on peut poser comme question? On voit pas mal de patous, c'est surtout les patous ou c'est quel genre d'espèce de chien?
Du coup, communément, on va appeler ça le chien de protection de troupeau. Donc effectivement, nous, sur le massif pyrénéen, on va trouver le patou, alias le montagne des Pyrénées, de son vrai nom.
Okay.
Du coup, voilà, ces chiens sont là pour protéger le troupeau d'hypothétiques prédations, donc multiples et diverses. Hein, du coup, voilà, sur les Pyrénées, on a plein de choses en type de prédation.
Okay.
Du coup, nous, notre association, la Pastorale Pyrénéenne, on va aider les éleveurs qui le souhaitent à mettre en place des chiens de protection. Donc pour les nouveaux éleveurs, on va les aider dans le choix du chiot. Voilà, on suit également les reproductions pour éviter tout ce qui est consanguinité, etc.
Okay.
Et après, on va faire le suivi des chiots avec ces éleveurs pour les aider vraiment à avoir un chien qui soit bien équilibré et qui soit bon dans la protection du troupeau en charge.
Ok, d'accord.
Voilà.
Et ces chiens, mais ils vous appartiennent? C'est vous qui les élevez? Vous les avez petits? Comment ça se passe?
Donc, pas du tout. Donc, nous, on fait vraiment le lien entre ce qu'on appelle les éleveurs naisseurs. Donc, c'est les éleveurs qui ont des géniteurs, femelles et mâles, qu'on va mettre en lien pour faire une reproduction. On va suivre cette reproduction, du coup, et la gestation de la femelle. Donc, pareil, en apportant des conseils si besoin, en allant voir comment ça se passe. Et après, en fonction des demandes qu'on a sur une acquisition, on va conseiller telle ou telle portée par rapport au caractère un peu des chiens et tout ça. Donc suivant si c'est un lieu fréquenté ou pas, des chiens plus ou moins calmes.
Donc, nous, on
est vraiment le lien.
D'accord, vous êtes le lien. Donc, vous n'êtes pas non plus sur le...
La gestion du troupeau.
Non, pas sur la gestion du troupeau, sur le chien. C'est pas vous qui dressez le chien, c'est ça que je voulais dire.
Exactement. Bah, nous, on ne dresse pas. Nous, non. On va... Par contre, on va donner des techniques de dressage aux éleveurs qui devront mettre en place pour que le chien respecte. Donc un chien de protection de troupeau, il faut savoir que ce n'est pas un chien de compagnie. Donc il va répondre à des codes canins qui sont différents d'un chien de compagnie qu'on pourrait accueillir dans son foyer. C'est un chien à qui on va demander d'être capable de prendre des décisions vis-à-vis du troupeau en autonomie, sans forcément la présence humaine pour lui dire « va à gauche, va à droite, reviens, voilà ». Il y a vraiment une différence d'éducation et nous, on va conseiller les éleveurs sur ce qu'ils doivent faire, après à l'éleveur de faire ce travail.
D'accord. Et est-ce que c'est le même dressage pour les moutons et les vaches? Est-ce que c'est différent? Est-ce qu'il y a une différence?
Alors, il n'y a pas de différence si ce n'est le bétail. Hein.
Oui, bien sûr.
Voilà.
C'est pour ça que je disais ça, parce que la taille d'une vache par rapport à la taille d'un mouton, c'est pas la même. Donc ça doit être impressionnant pour un chien. Voilà.
Alors, le chiot, donc quand il va faire sa mise en place, c'est à partir de 2 mois. Donc en général, nous, c'est vraiment des chiots qui sont nés sur troupeau ovin, donc brebis initialement. Mais ça s'adapte très bien sur un autre type de troupeau. Donc ça peut être des vaches, on a eu des demandes pour des cochons, pour des lamas par exemple, des chèvres également, enfin voilà, il y a des poules aussi. On peut mettre
des chiens pour les poules, pour garder les poules.
Voilà, c'est ça, des personnes qui ont des élevages de volailles, ça
D'accord.
existe également.
D'accord.
Donc ça se fait quand même assez bien parce que le chien, il a vraiment 2 mois, c'est encore un chiot, donc il va vraiment s'identifier à son futur troupeau. Et en général, ça se passe très bien. Pareil, il y a des façons de mettre en place sur l'exploitation spécifique à chaque élevage. Mais en général, voilà, ça se fait assez naturellement et très bien si c'est bien fait.
D'accord. Okay. Et donc, on a parlé du patou, mais il y a quoi aussi comme race de gardiennage de troupeaux?
Alors, on peut trouver plusieurs races. Donc, vous allez avoir le Kangal aussi, qui est assez connu. Vous avez le Transmontano. Quoi d'autre?
Les différentes races
chiens de production.
Les races généralement, Caucase, Patou, Dog du Tibet, Kangal, Chatur, Matin, Espagnol.
D'accord. Ouais. Et quand on fait un dressage pour un chien comme ça, on le fait jeune ou il peut être aussi assez âgé et il peut être un dressage?
Dans le ventre de la mer.
Ouais. Dans le ventre de la mer, d'accord.
C'est pour ça qu'on priorise vraiment des élevages où les deux parents, les deux géniteurs sont des chiens de troupeau déjà initialement, parce qu'ils vont avoir en eux cet ADN, déjà tous ces petits codes qu'ils vont transmettre au chiot à la naissance. Donc nous, on privilégie vraiment du chien issu d'un élevage qui est né en élevage, bergerie.
Ouais.
Qu'un chien de compagnie, par exemple, ne pourra pas devenir un chien de protection de troupeau parce qu'il n'aura pas eu les codes
génétiques.
Exactement, il y a de la génétique et il y a vraiment cette transmission des parents qui est importante
aussi. Oui. Donc un chien qui est en dehors de cette génétique ne pourra pas...
C'est compliqué.
Et ça sera plus compliqué, voilà. Ça sera plus dur.
Ça peut se faire, mais ça va être beaucoup plus compliqué.
Au
ça va demander
un travail
de l'éleveur qui sera vraiment important. Mais... Enfin, ça se fait rarement. Voilà. Parce qu'on
d'accord.
a assez de chiots issus d'élevage qu'on peut transmettre à nos éleveurs qui en ont besoin.
D'accord. Et vous êtes basé où? C'est une association? Vous êtes quoi?
Alors, du coup, on est une association, effectivement. Donc, le siège est à Saint-Gaudens, dans le 31, du coup, parce que c'est central, mais on intervient sur toute la chaîne pyrénéenne, c'est-à-dire des Pyrénées-Orientales aux Pyrénées-Atlantiques. On suit des éleveurs sur ces 6 départements pyrénéens. Voilà.
D'accord. Donc
on a cette chance
De couvrir pas mal
le territoire
tout à fait.
C'est ça.
Et comment elle s'appelle votre association? J'ai pas.
La pastorale pyrénéenne.
La pastorale pyrénéenne, voilà.
On était devant.
Fait l'interview. Et votre prénom?
Virginie.
Virginie. Okay. Eh bien, merci Virginie.
Ben, merci, ouais.
Pour cette coup. Interview.
Avec grand plaisir.
Et bonne journée.
Voilà. Et n'hésitez pas, si besoin, vous retrouvez nos coordonnées sur notre site internet pour les éleveurs qui nous écoutent.
Aussi.
D'accord.
Voilà.
Okay. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci. Tiens. Ouais, je continue.
Ouais, continue, Marius, et on est à fond.
Alors, attends. On va aller. Il y avait les fraises là-bas, mais on va peut-être. Est-ce qu'on continue encore d'enregistrer? Peut-être.
Je peux éteindre le bouton d'enregistrement si tu veux, Marius.
Si tu veux, on peut.
En direct.
Comme tu veux, après, on peut faire le tour des stands aussi, comme tu veux.
J'enregistre. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre stand? Tu t'appelles comment?
Écoutez, c'est David et Linda sur le marché artisanal de Biarte pour la transhumance. Et on prépare des galettes de pommes de terre râpées avec une sauce bête mâle et pour mettre dans les hamburgers. Ça passe très bien.
On va goûter ça peut-être tout à l'heure.
C'est quoi le bête mâle? C'est un fromage qui vient d'où? Expliquez-nous un peu.
C'est un fromage de bête mâle.
Voilà, tout simplement, qui vient de bête mâle.
Fromage de vache, ouais. Et on prépare les galettes avec de l'ail, des œufs, voilà. Et puis on rajoute la sauce par-dessus.
Avec les patates.
Avec les patates, et ça passe très bien. Et c'est local et ça fait du bien.
Et ça coûte combien tout ça?
La galette avec le bête mâle, elle est à 4 euros.
4 euros, voilà.
Et
ben voilà.
Et nature, 3,50 euros.
Voilà, okay. Donc vous avez entendu 3,50 euros pour une galette de bête mâle et nature 3,50 euros pour
nature et 4 euros avec la sauce.
Avec la sauce de bête mâle. Voilà. Allez, ceux qui nous écoutent dans la vallée, descendez pour manger une bonne galette de bête mâle.
Sûr.
Hein, Marius?
Ah ben là, oui, il va y avoir du bon, on va goûter ça après.
Allez, merci.
Merci encore. Hein.
Bonne continuation.
Ouais, ouais. Pareil. Qu'est-ce qu'on pourrait demander Ben, on voit qu'il y a du, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Ouais. Il y a des samoussas, il y a du curry, il y a aussi des viennoiseries. J'allais dire, c'est pas des viennoiseries, c'est des desserts en fait, ouais. Et du coup, tout est fait maison. C'est toi qui fais tout.
Maison, même la pâte de samoussa, tout est transformé avec les ingrédients locaux et bio, tu vois, je fais la cuisine du coin, quoi.
Trop bien. Et on peut te retrouver, t'es tous les jeudis et le dimanche sur le marché aussi?
Sur le marché de Massat, oui.
Yes. Et du coup, tu t'appelles comment?
Je m'appelle Sodou.
Sodou, ok, yes. Ah ben au moins, on sait qu'on peut te retrouver deux fois par semaine à Massat.
Oui, et je suis souvent plus, je cuisine plus de plats les dimanches. Les jeudis, je suis là à 2h du matin, quoi.
Okay, ouais, depuis la nuit quoi.
Oui.
Ok, yes. Bon bah bien. Bon courage alors, hein, bonne.
Merci. Merci beaucoup.
Bah ouais, bah merci, ouais. Alors du coup on est sur le rucher de Joubac, donc vous êtes sur Halleux.
Voilà, on est sur Halleux, on est sur Bietche, c'est au-dessus d'Halleux, mais c'est la même commune. Hein, voilà.
D'accord, ok.
Donc on a des ruches sur là, derrière chez nous, hein. Il y en a une trentaine. Après on en a sur Soulan.
Et vous en avez combien sur Soulan aussi?
Alors Soulan, il y en a 10.
D'accord.
On les a amenés, on les a transhumés pour faire de l'acacia.
D'accord. Ah, vous les transhumez. Alors comment ça se passe la transhumance pour les abeilles alors? Parce qu'on connaît la transhumance des moutons, des vaches et tout. Ouais. Et donc pour les abeilles, ça se passe comment? Est-ce que c'est plus compliqué
C'est plus compliqué parce qu'elles sont 50 000 à peu près par ruche. Alors on les ferme à 4 heures du matin. À peu près 4-5 heures.
Vous fermez les ruches à 4 heures du matin?
À peu près, oui, pour transhumer, oui. On les transhume de nuit, hein. On ne transhume pas en plein jour parce qu'elles sont dehors. Hein. Donc,
d'accord.
Là, elles travaillent.
Ouais.
Ah oui, et la nuit, elles dorment?
Elles ne dorment pas. Elles
travaillent aussi, mais dans la ruche.
Voilà, elles sont dans un état de léthargie, c'est-à-dire elles vivent au ralenti.
D'accord. Même,
voilà. D'accord.
Donc, on transhume. Après, on a des ruches ailleurs, mais bon, ça.
Et quand vous faites une transhumance, vous allez loin et,
ça dépend.
Ça dépend. Et donc là, vous allez où quand vous transhumez, vous, par exemple?
Là, on transhume à peu près à 15 km autour de chez nous. Hein?
D'accord.
Voilà, on les a à Galas, chez un éleveur. aussi.
D'accord, ok.
Là, il y en a une quinzaine, je crois.
Mais quand vous dites on les transhume, c'est pour trouver
un autre miel. Un miel différent, voilà.
D'accord. Voilà. Donc ça peut être quoi? Ça peut être un miel d'acacia,
du tilleul ou du châtaignier.
D'accord.
Et après, on transhume à l'autre montagne pour faire du rhododendron et de la bruyère.
D'accord, ok. Voilà. Quand est-ce que se finit la transhumance? Quand est-ce que vous les rentrez après, quand ils reviennent?
Mais normalement, elles sont à peu près transhumées en même temps que les bêtes, que les vaches ou les agneaux.
D'accord.
Ça dépend où on est. Bon, là, on ne peut pas aller à un endroit parce que la piste est défoncée, on ne peut pas y aller.
D'accord.
Donc, on les a amenés sur la Roque d'Olme pour faire du romarin et du rhododendron et de la bruyère.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Et après, le reste, on est sur Soulan, Galas, ça dépend d'Aleu aussi, mais on ne peut pas avoir tous les œufs dans le même panier.
D'accord. Voilà. D'accord, ok.
Une maladie ou quelque chose.
D'accord.
Ce sont des ruchers de 15-20 ruches à peu près.
Ça fait un paquet, ouais, quand même, du coup.
Sauf derrière chez nous, où là, on a les essaims qui sont en surveillance.
D'accord. Voilà. Ok. Pouvez-vous nous dire combien il y a d'abeilles et combien de rennes sur une ruche?
En plein boom, comme ça va être bientôt le cas, on est sur à peu près entre 40 et 50 000 abeilles. Avec une seule reine, bien entendu.
Avec une seule reine, d'accord. Après, mais sur une ruche?
Sur une ruche, oui. Après, si ça est sémé, on se retrouve avec une population dans la ruche qui est moindre.
D'accord.
Mais la reine continue de pondre, sont tout l'été, elles vont pondre jusqu'à à peu près fin août, 15 septembre.
D'accord.
Et là, voilà. Et après la colonie, on hivernera, on enlèvera les os, on ne produira pas de miel, on les laissera travailler.
D'accord. Voilà. Et une durée de vie d'une reine, c'est combien?
Avant, c'était 3 ans, 3 ans et demi. Maintenant, 2 ans, 2 ans et demi.
Et pourquoi ce raccourcissement de vie par rapport à il y a avant? À cause de quoi?
Parce qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas pour le bien-être des abeilles, quoi.
D'accord.
Donc, mais ça a toujours été que les ouvrières, c'est-à-dire celles qui sortent, hein, on ne parle pas de celles qui nourrissent ou celles qui rangent. Je parle des abeilles qui sortent pour récolter le nectar ou le pollen.
D'accord.
Cela, elles vivent bientôt à cette époque-ci, elles vont vivre 10 jours à peu près.
D'accord.
10 jours, 20 jours à peu près.
D'accord.
Que les abeilles d'hiver qui vont naître après novembre à peu près, là elles vont vivre tout l'hiver et elles sortiront au mois de mars. Et malheureusement,
parce qu'elles ne vont pas, elles vont pas travailler, elles ne vont pas récolter, c'est ça. Donc ça les fatigue alors de travailler, on peut dire.
Énormément.
D'accord.
Mais on ne peut rien y faire, hein.
C'est comme ça. C'est la vie de l'abeille. D'accord, ok. Ok. Et vous récoltez combien de miel?
Ça dépend.
Sur une ruche.
Ça dépend. Là, actuellement, on vient de récolter l'acacia. L'acacia est de cette année. C'est le seul miel qui est de cette année. Et le romarin. Mais parce que ça, c'est différent. Mais l'acacia, on l'a récolté là. On en fait à peu près, sur chaque ruche, il faut compter entre 15 et 20 kilos.
Voilà. Ah oui. Donc, vous avez dit combien de ruches vous avez?
Une cinquantaine.
Ah, donc, 20 kilos sur 50 ruches.
Ça en fait un paquet. Là, calcul mental.
100 kilos?
100 kilos,
on va dire. En gros, je vais vous dire, on a fait 300 kilos d'acacia.
Déjà, ouais.
Parce qu'elles ont cartonné.
D'accord.
Le temps s'est prêté, il a plu un petit peu, il n'a pas fait une tempête de grêle ou quelque chose comme ça s'est fait à d'autres endroits.
D'accord,
là,
ok.
Okay. Les fleurs tombent.
Ouais.
Là, ça s'est fait, il a plu un peu, ça fait gonfler la fleur.
D'accord.
C'est exactement le cas du châtaignier et du tilleul. Qui est en train de... Bon, nous, on est à 800 mètres d'altitude quand même.
Enfin, d'accord.
780.
D'accord.
Donc, un peu d'eau, c'est bon pour les fleurs. Ça fait gonfler les fleurs.
Bien sûr. Alors,
c'est ce qui se passe sur le tilleul et le châtaignier. Qu'on n'a pas récolté. Parce que nous, là-haut, il n'est pas fait encore. En pleine, je ne sais pas ici, mais il est plus en avance.
Ah oui, c'est plus en avance en pleine qu'en hauteur. Voilà, hein,
Nous, on a ramassé de l'acacia pendant un mois.
D'accord, ok.
Ah oui, avant.
Parce que ça s'est prêté. Il y avait des acacias qui fleurissaient, après d'autres, dont la production s'est faite. C'est pour ça qu'on a fait une très belle année d'acacias.
D'accord. Et est-ce que vous avez du problème avec le varroa? Est-ce que vous parlez?
Le varroa, c'est une chose. Le frelon, ça n'est qu'une autre.
Ah, vous aussi, avez des problèmes avec le frelon?
Bien sûr.
D'accord, ok.
Ça.
D'ailleurs, j'ai porté des pièges, s'il y en a qui veulent les acheter à 2,50 €.
Et justement, moi, je vais en fabriquer des pièges. Je sais comment les faire pour ne pas attirer justement les abeilles. Parce que quand on fait, justement, c'est ça la question que je voulais vous poser, c'est quand on fait des pièges à frelon, il ne faut pas prendre les abeilles avec.
Non, mais alors, les abeilles n'y vont pas si dans les pièges, il y a de l'alcool.
Voilà, c'est ça.
Il ne faut pas qu'il y ait ni sucre ni quelque chose qui va les attirer. Le donc, mieux, c'est la bière, la grenadine. Et le vin blanc, à la rigueur. Mais bon, moi, nous, on ne fait que bière et grenadine.
Bière et grenadine. Et là, c'est sûr que les abeilles ne viennent pas.
Non, elles ne viennent pas dans, elles ne viennent pas dans l'alcool.
D'accord,
elles
ok.
Elles viennent parce que c'est sucré ou quelque chose. Si vous mettez 4 cuillères à soupe de sucre dans un piège à frelons comme on a, nous.
Ouais.
Les abeilles vont rentrer.
Parce que, en fait.
On attrape quelques mouches, quelques guêpes, quelques.
Oui, oui, bien sûr.
Mais c'est des pièges sélectifs quand même. Je vais les peindre là tout à l'heure.
D'accord, ok. Mais moi aussi, je l'ai fait avec des bouteilles en plastique. Parce que je coupe le haut et je retourne et paf, je mets la bière et le frelon, il va dedans.
Nous, c'est même pas ça. Vous verrez après, je les
ai. Ouais, d'accord, ok. Et donc, vous pouvez nous dire où vous êtes basé et comment vous vous appelez pour et finir l'interview, s'il vous plaît.
Eh bien, Christian et Magui et Magali qui va venir cet après-midi faire quelques crêpes là. Elle est en train de les faire, elle va venir emporter.
D'accord.
Des crêpes au sucre, des crêpes avec du miel d'acacia.
D'accord.
Et une crème avec la basquela qui est un produit basque sans huile de palme. Donc, elle va venir vers 2h là, voilà.
D'accord. Et okay. Bien, voilà.
On est à Halle.
Donc, on était avec voilà. Le rucher de Joubac basé voilà. Sur Halle.
Exact.
Par contre, si les gens veulent venir, il faut téléphoner. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que le chien.
D'accord.
On est ici.
D'accord.
Voilà, il faut téléphoner avant de venir.
Donc, chères auditrices et chers auditeurs, si vous voulez venir acheter du miel à Halle, au rucher de Joubac, aujourd'hui, ils ne sont pas là car ils sont sur la transhumance.
Exact.
Voilà, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup,
merci
madame.
Merci, ouais. Oui.
Bonne journée.
Alors,
bonjour William.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va bien.
Ça va.
Alors, t'es en direct là sur Commune Fréquence, la radio
incroyable,
de Massat.
Incroyable. Donc, en effet, pour ce premier événement, on allait chercher nos patates à la boutique bio de Massat, au jardin des Sept Vallées, parce qu'on veut garantir de la patate bio. Ceci dit, plus tard dans l'année, quand on fera d'autres événements, on a des producteurs qui sont en train de se mettre en place pour pouvoir justement nous produire les patates, la catégorie, la qualité et l'espèce qu'on veut. Donc voilà, pour l'instant, on est sur de l'alliance des Sept Vallées, parce qu'on n'a pas eu trop le choix, mais qui honnêtement marche très bien.
Super. Et c'est quoi comme patate?
C'est des beans. Alliance.
Alliance. Ouais.
Non, justement, des beans, on aimerait bien travailler cet été, mais là, on n'a pas eu autant de choix qu'on voulait sur la production. Ouais.
D'accord.
Exactement.
D'accord. Et mais donc, elles sont prévues pour faire des frites, ces patates-là, alors?
Ouais, ça marche quand même, ouais, bien sûr.
Ouais. Ah,
après,
ouais.
Voilà, on espère justement améliorer encore et encore la qualité au fur et à mesure.
D'accord.
Bon, donc, on va goûter ça peut-être tout à l'heure.
Hein. On va goûter ça, Marius, c'est sûr et certain.
Et puis évidemment, on attend les retours des clients. C'est notre premier événement. Donc,
on ne manquera pas d'interroger les clients, voir s'ils sont contents de vos frites.
Pareil.
Merci William et
Émilie.
Merci William, ouais. Émilie qui vont être sur les stands tout l'été à vendre des frites.
Voilà.
Voilà, vous pouvez aller les voir. Merci. Bon, ben voilà, je vous présente Laurent, Agnès, qui habite sur Paresse, hein, si je ne me trompe pas.
Non, c'est tu ça. Ne trompes pas.
Je ne me trompe pas. Donc, depuis peu ou depuis un an, je pense que tu fais des.
Oui, ça fait.
Tu fais les marchés.
Oui, 3-4 ans.
Avec un stand.
Oui.
Tu peux nous parler un peu de ton stand?
Eh bien, le miel vient de nos petites abeilles de Paresse. On fait le miel, les nougats, les sucettes, les bougies, les chamallows, les pains d'épices, les savons.
C'est extraordinaire le miel, avec tout ce qu'on peut faire avec, quoi.
Tout est fait à base de notre miel et de notre cire quand on récolte.
D'accord. Et vous avez pas mal de ruches pour faire tout ça?
Pour l'instant, on en a une dizaine.
C'est pas mal, pour ça demande de l'entretien quand même.
Ouais, il faut s'en occuper, il faut les nourrir, il faut les soigner, et puis voilà quoi. Ouais,
et combien d'abeilles par ruche?
Ouh, quelques milliers par ruche.
Quelques milliers. Mais je me souviens, Agnès, je t'avais interrogé, tu m'avais dit, ouais, j'ai eu des problèmes avec mes ruches, mes abeilles, elles sont toutes mortes. Mais à cause de quoi, tu peux nous raconter un peu?
Alors, le varroa.
Ah. Et donc on peut rien faire pour le varroa. Il n'y a pas quelque chose à faire à...
Si, on les traite, mais quand la ruche est un peu faible et le varroa attaque, donc la défense est plutôt difficile. Elle décime toute la ruche. On avait été les voir une semaine et tout ça. Une semaine après, il n'y avait plus personne.
Et ça fait mal au cœur, bien sûr.
Et là, oui,
et donc, quand on n'a plus rien, est-ce que tu vas chercher des essaims sauvages ou tu rachètes des essaims? Et si tu rachètes des essaims, est-ce que c'est cher? combien coûte un essaim, quoi.
Alors oui, on rachète des essaims. L'essaim au minimum c'est 150 euros. Et cette année, on a réussi à en attraper deux sauvages.
Ah, et tu peux nous raconter comment ça s'attrape un essaim?
Comment ça s'attrape? Bah, quand c'est sur un arbre, tu secoues l'arbre et tu mets la ruche en dessous et tout le monde tombe dedans.
Ah ouais, c'est vrai, aussi simple que ça.
Aussi simple que ça, tu mets un petit drap blanc et t'as toutes petites abeilles qui appellent les autres. Elles se mettent en position pour appeler les autres qui sont dehors.
Et là-dedans, parce qu'elles sont nombreuses, mais comment on peut reconnaître s'il y a la reine ou s'il n'y a pas la reine?
Alors la reine est beaucoup plus grosse.
Ah oui?
Ouais.
Et plus grosse. Et tu la reconnais tout de suite?
Faut la chercher au milieu de tout le monde. Et après, tu vois une grande abeille, beaucoup plus grande, et c'est elle, et plus longue.
D'accord.
Donc voilà.
Ah, d'accord. Et donc après tout ce miel, tu peux arriver à faire toute cette fabrication.
Voilà, on met des hausses.
D'accord.
Dans leur maison à elles, elles ont leur miel pour manger, pour l'hiver et tout ça. Nous, on met les hausses et on récolte les hausses.
Et pour qu'elles restent justement, quand tu parles de l'hiver, pour qu'elles restent dans les ruches, est-ce que tu leur laisses un peu de miel? Comment ça se passe?
Oui, elles ont leur maison. Elles ont la base de la ruche, le corps, tout est à elles.
D'accord.
Tout est à elles. Nous, on ne prend jamais de miel là-dedans. On met juste des hausses après que le corps soit plein.
D'accord.
On met des hausses.
Qu'est-ce que tu appelles un corps?
Un corps, c'est là où elles habitent, c'est en bas. C'est leur maison à elles.
D'accord.
Après, on rajoute des éléments et c'est ces éléments que nous, on récupère le miel.
D'accord. Et donc, tout le corps reste au niveau du miel pour qu'elles puissent se nourrir tout l'hiver.
C'est à elles pour se nourrir l'hiver, oui.
D'accord. Et vous êtes tous les deux pour... pour faire ce travail?
Oh oui, il porte, lui, parce que moi je peux pas et moi je goûte.
D'accord.
Bon. Non, on est tous les deux.
Vous êtes tous les
deux.
Et parce que je sais que Agnès, avant, tu travaillais, je travaillais pour la poste, hein, je pense.
Ah oui.
Je pense que ça doit être un petit peu mieux de travailler pour les abeilles que pour la poste.
Voilà, ça n'a rien à voir. Oh, les gens de Massat sont gentils aussi, mais on est bien à la maison.
Okay.
À s'occuper des abeilles.
Super. Eh bien, merci Agnès, merci Laurent pour cette petite interview et bonne journée. Et j'espère que ça va marcher pour vous pour ce stand.
Merci,
on vous retrouvera tout l'été sur les marchés.
Voilà.
Merci, au revoir.
Alors voyons un peu comment ça se passe. Donc vous faites un atelier toujours toutes les semaines où on peut venir voir comment la bière se fabrique?
Alors c'est pas un atelier, on brasse toutes les semaines, mais on peut passer à la brasserie, ouais, bien sûr. C'est possible de nous voir travailler.
Ouais. Ok, donc vous êtes à côté du magasin bio?
Ouais, c'est ça, à Massat, dans le village, ouais.
Ok, ben voilà. On le saura. Eh ben, je crois que justement, Eric voulait te prendre une bière.
Ah bon?
C'était parti pour, ouais, une petite légère.
J'aurais bien voulu avoir une bière parce que j'ai su que tu as fait une fabrication de bière pas trop forte au niveau degré et qui désaltère. Tu peux nous en parler un peu de cette nouvelle bière?
On a fait une nouvelle bière qui s'appelle une NIPA, c'est une New Ariège IPA. C'est une bière avec des houblons 100% ariégeois, qui a 4,5 degrés, donc pas très forte, et très, très fruitée, très aromatique.
Alors quand tu dis houblon 100% ariégeois, ça veut dire que le houblon il a poussé dans ton jardin ou comment ça se passe?
Non, le houblon a poussé chez les agriculteurs qui sont la ferme du Vif à côté de la Vlanée. C'est un jeune couple qui s'est installé, qui a monté une houblonnière et on se fournit chez eux pour quasiment tous nos houblons. Et pour la NIPA, on a utilisé exclusivement leur houblon.
Pas mal, ah ouais, donc c'est local à fond, ça vient d'ici quoi.
Ouais, carrément, et le malt, ils sont du Tarn, et voilà, donc c'est chouette.
Énorme.
Ah, le malt est du Tarn, donc c'est un peu plus loin là. Le Tarn, on n'est plus dans le même département, on va dire, hein. C'est un peu plus...
un peu plus lointain.
Comment
c'est quand même en Occitanie, quoi.
Oui, oui.
Voilà. Plus proche, il n'y a pas, ouais, pour l'instant.
Et est-ce que tu peux nous parler un peu aussi de différentes bières que, parce que je pense que vous avez fait aussi différentes bières, parce que je vois aussi, il y a eu des super étiquettes qui ont été faites, et je vois que les étiquettes, elles sont sublimes. Et justement, tu peux nous en parler un peu avant de parler un peu des différentes bières, des étiquettes, où est-ce que vous les avez fait faire et qu'est-ce qui les a fait ? Parce qu'elles sont sublimes, vos étiquettes.
Ben merci, c'est gentil. Tu auras l'occasion du coup de féliciter les auteurs parce que pour la plupart, ils sont sur Massat. Ce sont, donc on a eu l'idée avec quelques artistes du village de faire des dessins pour nos étiquettes. Donc chacun a fait une œuvre avec dedans notre logo, pour incorporant le logo à son dessin pour chacune de nos bières. On a 7 bières différentes, donc 7 étiquettes. Okay. Et voilà, et on a travaillé avec une designeuse locale, Ivy, pour ne pas la citer, qui nous a fait la mise en page, voilà, et après c'est parti en impression, et là on est tout content d'avoir notre nouvelle gamme d'étiquettes, ouais, qui claque.
C'est vrai, c'est pas mal, ouais, c'est décoratif, quoi, c'est joli, ouais, ça change un peu. Puis c'est vrai que sur chacune différente, en fait, il y a le logo de la bière.
Voilà. Pas mal. Et le nom de l'artiste qui l'a créé. Voilà, nouveauté de l'année aussi, ben on va passer enfin la consigne sur les bouteilles 33 centilitres, on l'avait déjà sur les 75, on a galéré un peu pour trouver ça en 33, mais c'est en cours, d'ici un mois, on passe en consignable total.
Voilà. Consignable total,
100%.
Wow, c'est super ça, c'est génial.
Pratique,
ça,
ouais,
on
au
peut
moins.
Dire que c'est écolo ça, on peut dire.
Alors disons-le.
Et tu nous disais donc cette bière différente, tu peux nous en parler un petit peu. Donc tu nous as parlé de la bière qui est pas très forte en degrés mais qui désaltère, qui s'appelle comment tu nous l'as appelée déjà celle-là ?
Naipa.
Naipa. Et tu peux nous dire un peu des autres bières, qu'est-ce qu'il y a, les goûts et les odeurs, s'il y en a.
Alors, on a une bière blanche qui est assez douce, qui est fruitée. On a une Imperial Stout, c'est une bière forte en goût de café avec du malt torréfié et en degré d'alcool assez élevé, hein, aux alentours de 8 degrés. On a
Et donc la Stout, c'est de la brune, hein, c'est ça, hein,
ouais, c'est
pas
une noire, vraiment noire, on peut dire café sucré, quoi, bière de dégustation, voilà. On a une ambrée qui va être plus typique des ambrées, malt, caramel, qui est à 6 degrés, donc un peu forte, mais pas non plus excessive. Ensuite, on a une blonde qui est assez fruitée. Voilà, qui est simple et fruité comme une blonde. On a une IPA qui est plus aromatique et moins amère que les IPA classiques parce qu'on aime bien ça.
D'accord.
On a une Pater. Une Pater, c'est une bière belge au miel. Voilà. Avec du miel de la vallée, bien sûr.
D'accord.
Et on a. Qu'est-ce que j'oublie ?
Voilà.
4, 5, 6, 7, non, c'est bon, j'ai fait vite.
D'accord.
Pas mal.
Quand je vois toutes ces différentes bières, mais vous êtes nombreux à travailler pour faire justement cette bière. Comment vous choisissez à dire, eh ben tiens, celle-là, je voudrais la faire au café, celle-là, je voudrais la faire fruitée. Vous êtes nombreux à le décider. Comment ça se travaille, tout ça?
Ben, on est deux.
Et c'est pas nombreux, deux.
Non.
Ah,
non, mais
facile,
après,
alors le choix.
Le choix est facile. On est obligé d'être à l'unanimité, sinon ça marche pas. Et voilà, après on s'est basé sur des bières qui existent déjà. Sûrement qu'à l'avenir on se fera des petites inventions diverses et variées. Mais pour l'instant on a fait des gammes qui existent déjà en les adaptant à nos goûts.
D'accord.
Pas mal.
D'accord. Et au niveau, au niveau du personnel, vous allez rester tout le temps d'eux ou vous risquez peut-être qu'un jour, si ça se, si vous, ça, c'est, ça se grandit votre entreprise, vous risquez d'embaucher ou pas du tout, vous prévoyez pas du tout le fait?
On prévoit d'agrandir. Après, on sait, forcément que il y aura peut-être besoin d'un peu plus de monde. Mais pour l'instant, on n'est pas complètement au fait là-dessus. On ne saura pas dire dans quelle proportion, dans quelle mesure. Mais oui, on est en projet de faire un peu plus de bière et d'animation locale.
Ah, et tu peux nous parler un peu d'animation locale, est-ce que ça va être? Ça sera le dernier mot, bien
ça
sûr.
Ça sera le dernier mot. On est en train de mettre en place un projet d'agrandissement de brasserie avec dedans une salle un peu de concert, salle d'animation, lieu festif attenant à la brasserie. Voilà, c'est en cours.
Et avec une restauration ou en plus?
Avec une restauration sur place, un bar, restaurant et enfin... De quoi manger, de quoi boire et de quoi danser.
Waouh, génial.
Ça fait pas mal de trucs.
Beau programme, beau projet. Eh bien, merci Pierre pour cette interview sur ta brasserie, donc qui est l'Abîme. Et on te souhaite une bonne journée, une bonne vente.
Voilà, bon courage.
Merci à vous.
Là, c'est bon, on a le programme.
Donc là, c'était à partir de 11h jusqu'à... 19h, il y a le marché fermier. Donc, comme on vient de dire, vous pouvez venir acheter votre viande, votre steak, et venir le faire griller vous-même sur les planchas qui sont à disposition.
Voilà.
Il y a deux planchas qui
sont
à disposition pour faire venir faire griller votre
steak. Ou la saucisse, hein. On a vu quelqu'un passer à côté avec la saucisse, c'est
et
pareil.
Et bien sûr accompagné de frites maison bio.
Aussi, ouais, qui a voilà, qui la frite est... à 4 euros, chaud la patate, chaud, c'est là-bas.
C'est chaud la patate qui fait ça. Il y a aussi des mini-fermes avec stand des associations d'estives pour tout savoir sur la transhumance.
Ça, c'est de l'autre côté, là où
donc,
il y a le miel.
Donc, on ira sûrement les voir pour leur faire un petit interview, avoir un peu, de voir un peu ce qu'ils pensent, tous ces gens.
Ouais, bah ouais, voilà. Moi aussi, ouais, on y allait.
Donc, 15-16h, c'est le retour des estives. Donc, les gens qui sont montés sur Goutettes, et la ferme de Liers, excusez-moi, la vallée de Liers. L'estive de Liers sont de retour pour 16h. À 17h commencent les danses folkloriques.
17h.
Donc les danses folkloriques, j'aurais bien voulu avoir plus de précision. Quel était le groupe qui faisait les danses folkloriques? Je vois pas Yves,
aucun
Yves
danseur,
dans le coin pour nous préciser. Pour vous préciser le groupe qui fait les danses folkloriques, mais on pourra lui demander tout à l'heure.
Hein. Pareil, ouais, au moins on sera au courant.
Voilà. Et 17h30, tir à la corde.
C'est pour les gaillards, ça.
C'est pour les gaillards et les gaillardes.
Voilà aussi.
Voilà. Les costauds et les costaudes.
Pareil.
Voilà. Après 18h, chant pyrénéen avec les pastous.
Pastous.
Voilà, donc chant pyrénéen, donc ça va être des chants traditionnels. 18h30, discours et remise des récompenses aux éleveurs.
Aussi.
Donc il y a un concours sûrement sur la plus belle vache.
Oui, admettons, hein, parce qu'on a vu,
des super belles vaches.
Des grosses, ouais.
Voilà, donc remise et récompense pour les éleveurs.
Pareil.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Bonjour. Et 19h30, apéro. Alors là c'est l'apéro, 19h30. Offert par la municipalité.
En plus, waouh, la chance.
Voilà, la chance que les biertoises et les biertois, on dit ça d'ailleurs, les biertoises et les biertois.
Biertois, oui, exact.
La chance c'est bien ça. D'avoir un apéro offert par la municipalité.
Si.
Et à 20h30, nous 20h30
repas,
le repas,
le bal
est suivi d'un bal. Là, on ne sait pas du tout si le bal est conduit par Massad Trad. Mais alors, à mon avis, ça doit être conduit par Massad Trad.
Sans doute. Alors là, que dire de plus ? On ne sera pas là.
Voilà, on ne sera pas là, nous, sur cet événement-là. On ne peut pas être partout.
C'est sûr, ouais. À 20h30, on sera sans doute encore là-bas.
Ouais, voilà.
Qu'est-ce qui se passe ? Salut.
Bonjour. Donc, on peut dire le. Est-ce qu'on dit le menu pour le repas ?
Ce soir, ben carrément.
Le repas de ce soir. Donc, le menu : jambon de montagne, pâté de canard en croûte.
Fameux.
Tarte au confit d'oignon.
Ouais, pas mal.
Joue de bœuf à l'ancienne. Demi-grenaille à l'ail en persillade. Donc, grenaille, tu m'as précisé que c'était des patates coupées en petits dés.
En deux, exact.
En deux.
Moitié grenaille.
Super. Fromage lariégeois.
Ouais, lariégeois.
Voilà.
Fromage de vache.
Ça peut être le bête mâle, ça peut être plein de.
Ah, je crois que lariégeois, c'est un fromage.
C'est un fromage.
Un fromage d'ici, ouais.
C'est pas les fromages ariégeois. Donc, lariégeois, c'est bien un fromage.
Je crois, ouais.
D'accord.
Lariégeois, c'est lariégeois.
Ok.
C'est pas le bête mâle.
Après, une croustade aux pommes, eau, vin, en boisson, eau et vin.
H2O.
H2O. Pain et café.
Aussi, c'est
et
pour
donc, adulte, à partir de 12 ans, 25 euros.
Voilà, c'était ce qu'on disait.
Donc voilà, on est adulte à partir de 12 ans maintenant. C'est
voilà.
Super.
Ah ben, on est en plein dedans là.
Ouais. Et menu spécial pour les enfants jusqu'à 11 ans. 12 euros. Ouais. Voilà.
En dessous, ils ont pas le droit de manger. Non, je ris.
Tiens, je vais avoir une petite précision sur le bal. Puisque j'ai Hélène à côté de moi.
Tout à fait.
Bonjour Hélène.
Bonjour.
Salut.
Voilà, on est en direct sur Commune Fréquence. Donc on était en train de dire le programme de la journée jusqu'au soir.
Jusqu'au soir, voilà.
Et on n'avait pas de précision sur deux choses. Est-ce que Hélène, tu peux nous les préciser ? C'est-à-dire, les danses folkloriques, c'est fait par quel groupe ?
Alors, les danses folkloriques, ce sera à 17h. C'est le groupe des Liadours, c'est le groupe des danses folkloriques de Massat, dont je fais partie. Donc, ce n'est pas tous les jours qu'on voit en costume de Liadours, n'hésitez pas. De 17h à 17h30, 18h.
Oui,
et
c'est
ce sera
bien
sous
cela.
Voilà.
Danses folkloriques à partir de 17h30.
Voilà.
17h.
Et en sabots, évidemment, moi, comme je m'appelle Hélène, ça me fait bien rigoler.
Ouais, les sabots d'Hélène, bien sûr.
Classique.
Fameuse chanson écrite par On connaît tout le monde. On connaît. Et après, est-ce que tu peux nous préciser à 20h30, donc il y a le repas, mais suivi d'un bal. Alors, quel groupe va assurer le bal ?
Ça, je vais passer la main, je pense, à quelqu'un de. Donc, on est plusieurs associations à organiser ces vêtements. Et là, c'est la partie comité des fêtes et Biertaoué qui fait ça. Et qui est-ce qui aura l'information à l'entrée du stand ? Il y a le stand de Aracroc et des associations qui va vous donner tout ce qu'il faut comme information.
Des précisions.
Voilà. Et par contre, ici, sur ce stand-ci, vous pouvez avoir, comme partout, l'annuaire des producteurs locaux.
D'accord.
Pour rentrer chez vous et savoir les numéros de téléphone de tous les producteurs.
Ah, merci Hélène, c'est très, très, très important de nous avoir donné ça.
Ce soir, c'est plutôt ambiance disco.
D'accord. Okay. Le bal, ça sera disco. Ça sera pas une bourrée, une scottish.
Non, c'est pas un bal trad.
D'accord,
c'est un bal
ok.
Disco. D'accord. Années 80, je crois, c'est ça.
D'accord, ok.
Ok.
Mais ça sera de la musique live ou enregistrée ?
Non, il y a du live.
Il y a du live.
Trop bien. Okay. Ben, merci pour les renseignements.
Merci Hélène pour ces précisions et bonne journée.
Merci à cette belle radio, vous nous réjouissez.
Merci beaucoup.
Santé,
Alors, au revoir.
Putain, on hésite à se prendre un petit bout de saucisse là. Moi, c'est la saucisse qui me.
On a l'odeur de viande là qui nous passe sous le nez.
Aussi, ouais, c'est ça.
Ah,
qui,
c'est pas mal.
Après, il y a du sec. Hein. Il y a du sec aussi. Le sec, c'est pareil. Hein. Ça fait envie tout pareil. Quoi. C'est autre chose après.
Donc, si vous n'êtes pas passé à table,
et que vous n'avez rien dans votre frigo ou que vous n'avez pas préparé à manger, n'hésitez pas, venez à Bierte, il y a tout ce qu'il faut.
Ah ben oui, là...
Et on vous le fait déguster en direct, c'est sur comme une fréquence.
Évidemment, évidemment. Ah voilà, on a le programme, les produits locaux, il y a même des lentilles.
Ah Yves, ah super Yves. Ben on était en train justement de parler du programme de la journée.
Oui.
Et on était justement en fin d'après-midi, c'est-à-dire à 20h30. Donc on disait le repas, mais c'est suivi d'un bal. Et nous n'avons pas le nom du groupe qui fait le bal. Est-ce que tu peux nous faire cette précision, Yves ?
Je ne l'ai pas de mémoire, mais je peux aller là, je peux aller le chercher.
Tu peux aller te chercher, mais sinon, non, Yves, te déplace pas. Je vois que tu es pas loin d'être en train de manger.
Mais moi, je m'occupe surtout du marché fermier.
D'accord.
Et après, c'est marqué quand même sur c'est marqué dessus sur l'affiche.
Oui, d'accord. Et donc, on ira voir l'affiche où il y a le nom du groupe qui va faire le bal. Eh bien, merci, Yves.
Et en tout cas, c'est sur le repas est sur réservation. Il y a déjà 150 personnes, il va y avoir un enfer avec des chants pyrénéens.
Tout à l'heure, ouais, c'est vrai.
C'est super tradition ce soir.
Super.
Plonger dans la tradition.
Plonger dans la tradition.
À fond.
Pour mélanger les populations, pour que les néos viennent découvrir la tradition.
D'accord.
Et dans l'autre sens aussi.
Et que les traditionnels
viennent voir les néos.
Que les néos. Bien sûr. Ils voient qu'ils s'intéressent à eux et à ce moment-là, il y a un retour.
Il y a un retour, bien sûr.
Communication.
Moi, c'est l'idée que j'ai envie d'avoir.
Mais bien sûr.
Des activités qui créent
bien. Je pense que c'est l'idée de tout le monde à Massat que ça se mélange.
Il faudrait.
Voilà.
Que ça se mélange, que ça s'apprécie, que ça se découvre.
Mais je dis à Massat, je dis partout, que ça soit à Bierte, à Soulan et tout, c'est partout. Bien sûr.
Qu'on arrive à se connaître, à mélanger et puis à s'apprécier plutôt qu'à se regarder en chaîne faïence.
Bien sûr.
All around the Couseran.
Voilà.
Le Couseran.
On est tous d'ici maintenant.
Moi aussi, ouais, c'est vrai, depuis le temps.
Ben merci Yves et je te souhaite une bonne journée. Bon appétit et on ira voir au stand le nom du groupe pour le bal de ce soir.
Et merci à la radio, la nouvelle radio Fréquence.
Comme une fréquence.
D'être venu sur cet événement, vraiment, ça me fait vraiment plaisir de voir que vous soyez.
Et bien, de même, ça nous fait très plaisir aussi.
Ouais, plaisir partagé.
Hein, Marius,
c'est vraiment, clair. Merci. Au plaisir.
Ciao.
Après. Que dire ? On est toujours au même endroit avec ces foutus Gascons.
Nous sommes toujours au même endroit parce que je pense que c'est là à cette heure-ci où il y a le plus d'animation.
Aussi, hein, il y a du monde, ouais, les tables se remplissent, les gens mangent aussi, ouais.
Voilà.
Deux petites tables pleines là-bas. Ouais, bah ouais, il y a toujours ça grille, ça se balade. Voilà, le tour est vite fait. On se mange un truc ou quoi?
Non, on va se manger un truc.
Bon, ouais,
qu'est-ce qui te fait envie, Marius?
Une petite côte de Gascogne, là?
Blam!
On sous ça sur la grille.
Blam!
Putain. 1,4 kg, là, la première.
Une petite côte de vache. Ouais, on s'en prend une à deux ou bien?
Oh putain, tu veux bouffer ça, quoi?
Hein?
Oh ya, putain, ça fait envie.
120 grammes.
Chacun, ouais, ça ferait, quoi.
Ah non, on se la partage en deux, Marius.
Ah, la petite, là, ouais. Ah ouais, celle-là.
520 grammes.
Admettons, ouais. Entre côte de vache.
14 euros, en fait.
Oh, yeah.
Sinon, il y a des plus petites.
Aussi, il y a des petits steaks. Steaks de vache.
Y a des plus petites, là.
Aussi, c'est du filet, ça, ouais.
C'est des tourne-dos.
Autant.
Tu connais ?
Ouais, carrément, bah, c'est du filet, ouais, c'est
sûr,
un morceau.
Marius.
Comme une fréquence.
Ouais, Marius, je sais que tu es aussi, ton métier c'est
boucher. Boucher, la boucherie, voilà.
Donc tu peux nous dire où tu travailles, Marius, vite fait ?
Exactement, boucherie Lumino à Oust, on connaît l'adresse, c'est à côté.
D'accord.
C'est donc, pas Bierte exactement.
Donc les pièces de viande qu'il y a ici, elles n'ont pas de secret pour toi ?
Aucune, ouais. je vois de la hampe là qui ressemble à de l'onglet, mais ouais, ça a l'air bon. Tout ça, il y a de la bonne viande. il y a de la bonne viande. Après, il n'y a pas de saucisse. Moi, c'était la saucisse qui m'intéressait. Et la saucisse, c'est chez Judith, c'est à côté. Après, je vais en prendre un petit goût d'ailleurs.
Oui, oui, oui. Alors, donc, moi, je suis Judith et j'ai une petite ferme à Boussenac. J'ai une petite troupeau de vaches Galloway. En ce moment, ils sont sur l'estive et j'ai du viande ici, à griller.
Pareil.
Elles sont parties aujourd'hui en estive, tes vaches ?
Non, non, non. J'ai monté mes vaches la dernière semaine. Donc, ils sont déjà là. Parce que j'ai un petit troupeau, donc c'est une petite transhumance.
De combien de vaches tu as ?
En ce moment, en total, donc le petit, le taureau et tout le monde ensemble, j'ai 36 animaux.
Oh, c'est pas mal, c'est un beau petit troupeau.
Oui, oui, oui.
Et tu peux nous parler un peu de la vache Galloway, parce que je vois qu'elle a une robe assez spéciale. Hein?
Oui, oui, oui. Alors, il a du poil long et il a une robe noire, blanc, noir. C'est une race écossaise. Bien rustique et donc bien adapté à la montagne ici.
D'accord.
Okay. Et il y a plusieurs d'éleveurs dans le coin qui a la même race. Parce
oui,
que
ben je connais un éleveur qui s'appelle Édouard et oui, je pense qu'il a les mêmes vaches que
oui,
tu as.
C'est mon voisin.
D'accord, vous travaillez, oui. Mais vous travaillez ensemble
ou... Oui, il a ses vaches sur la même estive que moi. Et oui, on travaille souvent ensemble.
D'accord.
Parce que, en tant d'éleveur, on doit soutenir...
Et ton estive, elle est où? Elle se trouve où, alors?
Alors, mes vaches, elles sont au col de Port, mais à côté de Boussenac, à côté gauche, là. Parce qu'au col de Port, il y a aussi les vaches de Sorat et de Chevaux, et il y a des vaches de Pratalbi qui viennent souvent.
Donc, c'est une grande estive au col de Port, alors?
Oui, oui. Alors, notre côté, c'est bien clôturé, là.
Ouais.
Le reste du vache, ils sont en liberté.
D'accord, ok.
Mais le nôtre, ils sont clôturés.
D'accord.
Et il y a plusieurs éleveurs, donc Julien, Edouard, moi.
D'accord.
Qui montent. Alice, elle monte de chevaux.
Alice, c'est celle qui tient le centre équestre
avec ses
mérins,
oui,
c'est ça,
oui,
hein,
c'est ça.
On l'a vu tout à l'heure, ouais.
Ouais,
ouais, ouais. Ouais, ouais. Et donc tu fais de la transformation. Tu fais de la saucisse et
oui,
du steak.
D'accord. Oui, j'ai du steak haché, du steak de bœuf. J'ai quelques côtes en ce moment. Et le 15 juillet, j'ai aussi à nouveau de viande fraîche, un vrai bœuf.
D'accord.
De 4 ans. La viande est maturée pendant 2 semaines. Donc,
D'accord. Et à partir du 15 juillet ?
Oui.
Mais où est-ce qu'on pourra la trouver, cette viande ? Est-ce que tu vends sur les marchés ou tu vas...
Moi,
tu
je fais... vends la plupart aux boutiques paysannes à Massat, au Cincy, le nouveau boutique là.
Ouais.
Bonne adresse, ouais.
Et aussi aux épiceries à Espice. Et,
D'accord.
Je garde un peu parce que je fais aussi avec mes burgers et le saucisse, je fais le marché nocturne.
D'accord, ok.
Oui.
Est-ce que tu es aussi à l'épicerie au Paradis Païen, à Castel d'Alleux ou
non,
pas
non,
non, tu ne donnes pas... Tu
non,
donnes pas,
normalement tu donnes pas, non.
D'accord, ok.
Oui.
Bon, ben...
Et je fais quelques colis normalement aussi.
Ouais,
donc,
ah oui, d'accord.
Pour
donc,
tout le monde qui veut une plus gros quantité.
Oui, et c'est des gros colis de combien ?
5 kilos.
5 kilos,
oui.
D'accord. Et tu peux trouver quoi dans ces colis ? Il y a quoi comme pièce de viande ?
Alors,
un peu
normalement,
tout, hein.
En été, je fais une colis à cuisinier. Et dans ce colis, j'ai du bouffe bourguignon, de saucisse, de steak haché et tout ça. Et pendant l'été, je fais aussi une colis spécial barbecue avec que de morceaux à griller.
D'accord.
Ouais.
Et combien ça coûte un paquet comme ça?
Alors, un paquet juste à cuisinier, ça fait 90 euros. Un colis à griller, donc
à griller.
Bon morceau de côte bœuf et tout ça, ça fait 120 euros.
120 euros pour à peu près 6 kilos de viande. C'est ça?
Pour 5 kilos de viande.
5 kilos de viande.
Avec de bons morceaux, du rump steak, de côte bœuf, que de morceaux comme ça.
Waouh, super.
Bon à savoir.
Eh ben, merci. C'est comment ton prénom?
Judith.
Julie, merci Julie.
Judith.
Judith, excuse-moi.
Oui, c'est ça.
Excuse-moi, mais ben, merci pour cette interview et bonne continuation et bonne journée.
Avec plaisir.
Bah ouais, la même. Hein. Si t'as de la saucisse, t'en as de la normale. Je vois que t'as de l'échalote, mais t'as de la normale aussi.
Oui, aussi.
Bah, je vais en prendre un petit bout,
oui,
je veux bien.
Oui. Tu veux une moitié ou un entier?
Un entier, ouais, je veux bien, ouais. Ouais, nickel.
C'est la bonne ambiance avec comme une fréquence.
C'est le disco musique là. Si on écoute un peu, on va venir écouter, c'est un peu plus fort que tout à l'heure.
On est bien là.
Ouais, ça a l'air pas mal. Direct. Ça va, c'est bon, hein, ça a l'air de marcher.
Eh ben voilà, nous revoilà. Bonjour. Je parle trop fort au micro, c'est toujours la même chose. Eh bien voilà, nous avons changé d'ambiance, mais c'est comme une fréquence, hein, on change d'ambiance. Et voilà, on est sous la halle à Massat, hein, Marius ?
Exact, présent, avec les patineurs.
Avec les patineurs, là on a changé d'ambiance complètement. On est sous la halle, le comité des fêtes qui organise le patinage à roulettes.
Le patinage, exact, ouais, voilà, patinage à roulettes avec les freins et tout le bordel, tout ce qu'il faut pour faire du patin à roulettes, quoi.
Donc nous revoici en direct et ben là il y a un petit peu de gens qui patinent, là il y a la musique, il y a l'ambiance qui commence à monter et donc est-ce qu'on se lance un petit interview, Marius, t'es prêt, t'es chaud?
Pour commencer, allez, ouais carrément, on va voir, on va essayer de prendre quelqu'un qui sait quelque chose. Par ici, hein, peut-être. Bonjour. C'est la radio, c'est la radio de Massat en fait, comme une fréquence. Voilà, c'est sorti au mois de mai là, le mois dernier. Bah, depuis un peu plus d'un mois là, ça a commencé.
Quelle fréquence?
Et c'est comme une fréquence en fait, c'est un site internet, c'est une web radio en fait.
Ah, sur. D'accord.
Et on est une petite dizaine en fait à organiser un peu les trucs. On couvre un peu les événements qui se passent à droite à gauche.
Ouais.
Ce matin on était à la Transhumance.
Ouais.
Et là du coup on venait pareil voir, demander un peu au comité des fêtes comment ça se passe.
On va voir la patronne pour ça.
Autant, ouais.
Ah ouais. Par exemple. Yes.
Peut-être un peu moins de bruit par là.
Salut.
Bonjour Séverine.
Bonjour.
Ça va?
Oui.
Ben là, c'est comme une fréquence qui est venue voir votre manifestation, votre fête. Donc, là, on est en direct. Oui, là, on est en direct. Mais est-ce que tu enregistres pour le podcast? Est-ce que tu as appuyé sur le petit bouton aussi? Parce qu'il faut qu'on appuie aussi sur un petit bouton pour pouvoir faire l'enregistrement, pour que les gens ils puissent écouter ensuite un podcast. Voilà. Donc, bonjour Séverine.
Bonjour.
Alors, ça fait un petit moment que vous êtes là. Vous êtes arrivé à quelle heure?
On a commencé, c'est une fin d'après-midi, 18h. Et puis on va finir toute soirée, jusqu'à minuit on sera là.
D'accord,
voilà, avec la musique, les petits burgers, les crêpes sucrées. Et voilà, c'est une journée patin qu'on fait depuis c'est la deuxième année.
D'accord, et comment ça vous est venu d'organiser une soirée à patin roulette? C'est pas...
Parce que ici c'est un territoire de patinage à roulette. Il y avait des associations de hockey, des associations de patinage artistique. Et donc on s'est dit que c'était bien de faire revivre sous la halle des choses qui existaient à l'époque. Voilà. Ah. Et on a trouvé une association de location de patins qui était disponible pour venir louer les patins sur place, qui est à Toulouse.
Ah, c'est à Toulouse. Ah, mais c'est intéressant. Donc, il y avait une équipe de patins artistiques sur Massat.
Il y avait des filles et des garçons qui faisaient du patinage artistique. Donc,
et ça consistait à quoi, le patinage?
Ils faisaient de la danse sur patin.
D'accord.
Voilà, comme ce qu'on voit à la télé, les compétitions du patin à glace, quoi.
Ah, d'accord.
Et c'était du patin à roulette.
Patin à roulette. Et j'ai entendu dire aussi qu'il y avait une équipe de hockey en patin.
Le rink hockey, oui. Qui allait jouer à Toulouse, jouer à Massat, qui s'entraînait. Et les équipes venaient ici jouer. Et nous, on se rendait sur Toulouse pour faire des matchs. Voilà,
c'est intéressant, ça, Marius.
Ah, pas mal, ouais. Bah ouais, c'est vrai que ça existait.
Quoi, cette équipe, hein?
Bah dans le temps, ouais, c'est vrai qu'il y avait le patinage sur l'ancien terrain.
Voilà, hein, c'était sur l'ancien terrain qui a été démoli pour faire la halle. Donc c'est normal qu'on refasse du patin à l'endroit où il y en avait à l'époque.
C'est,
voilà.
C'était eh ben super. Et je voulais parler aussi un peu du comité des fêtes. Vous faites souvent des rencontres, des fêtes.
Alors on fait environ une fête tous les 1 mois et demi à peu près à chaque vacances. Et on essaye de faire là c'est un peu plus pour les jeunes, les ados. Et la dernière fois c'était un cabaret, c'est un peu plus pour les couples avec repas à table. Et la prochaine fois c'est la fête du village, alors c'est pour tout le monde, les enfants.
Et c'est quand la prochaine fois alors?
Alors c'est le 7, 8, 9 août.
D'accord, voilà. Fête du village, voilà. qui existe depuis un moment d'ailleurs, ah ben, cette
depuis
fête.
Depuis avant que je sois née, je passe.
Avant que je sois née. Et voilà. Ça fait longtemps que tu as repris le comité des fêtes, toi, c'est
ouais, nous, ça fait une vingtaine d'années, même voilà, quand on était jeunes, on était déjà. Et là, on a repris, ouais, c'est une vingtaine d'années qu'on y est.
D'accord, voilà. Ok.
Et qu'on okay. essaye et de maintenir êtes... la fête du village et d'essayer de faire aussi.
Parce
des
que
activités
c'est
de
dur de maintenir la fête du village ou...
Non, parce que les gens, ils viennent exprès pour la fête du village.
D'accord.
Et il y a des jeunes qui étaient ici à l'époque et qui reviennent exprès pour cette fête. Donc, c'est important de la maintenir. Et d'accord. puis, il y a aussi des gens d'ici qui ont envie d'être à la fête. Voilà.
Qui ont envie d'être à la fête.
Oui.
D'accord. Et vous êtes nombreux à ce comité des
Alors,
fêtes?
Alors, on est entre 10 et 15. Et puis, il y a des gens qui viennent aussi pour nous aider.
Des bénévoles. Vous,
des faites, bénévoles en plus.
Vous faites appel à bénévoles.
Bah, ils se proposent. Ils se proposent de même.
D'accord.
Donc, voilà, ça, on rigole bien. Voilà, c'est beaucoup de travail. Mais c'est aussi, ça nous fait plaisir de
Parce
pouvoir
que
faire...
Je pense que tu travailles à côté.
Bah, je travaille, oui.
Et tu travailles où, Séverine?
Je travaille à l'école, je suis ATSEM.
D'accord, à l'école de Massat, oui. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Et bien, Marius, qu'est-ce que tu pourrais rajouter là-dessus?
Ben, à part le comité des fêtes, voilà, du coup, on est venu aussi, pareil, à voir, à voir comment ça se passe. On va aller voir le burger à côté, oui. Pareil, les patins...
Ben merci d'être venu nous rendre visite et puis on vous attend à la fête de Massat alors.
Ah ben oui, avec plaisir. Ouais.
Merci beaucoup.
Ouais, merci à vous, Séverine.
Ouais. La suite, continue. Bon, on éteint.
Après,
comme ça fait une émeute, quoi. Voilà.
C'est bon.
On est déjà quatre.
Voilà, c'est...
On va te défoncer.
Ben voilà, du coup, on faisait la pub, Polo, à Souex, c'est là-bas que ça se passe. Qu'est-ce qu'on peut dire de mieux? Des bons burgers, spécial tous les mercredis.
Eh oui, moi j'ai fait des burgers locaux, avec des produits qui viennent du Haut-Couseran, à part le poulet qui est français quand même. Voilà, si c'est pas local, c'est fait maison. Tout est bon avec Polo.
Ben voilà, ben au moins on est au courant, on le sait.
Et à chaque fois, on se régale, donc ce soir, on va sûrement se régaler.
Si, c'est plus de la pub qu'autre chose, ouais, voilà. C'est vrai, ouais. C'est bien aussi, c'est ce qu'il faut.
Je remercie le comité des fêtes de m'avoir invité à venir.
Ouais. Aussi, ouais.
Voilà, ça c'est chouette.
Il y a du monde sinon à Souex, c'est un peu ces temps-ci.
Quand il y a du beau temps, il y a du monde. Ouais. C'est le distributeur de la météo. Quoi. Dès qu'il fait beau, il fait chaud, j'ai pas mal de monde. Et là, avec ces derniers temps où il fait maussade, voilà, les gens restent chez eux. C'est comme les champignons. Hein. Dès qu'il fait beau, ça sort. Hein. Comme les gens. Quoi.
Ouais, c'est sûr.
Voilà, quoi.
Toujours pareil.
Après, je ne fais pas que des burgers, je fais des descentes de kayak aussi.
C'est tout l'été aussi que ça se passe.
Vous pouvez venir manger un burger, faire une petite descente de kayak pour digérer derrière.
C'est vrai qu'on ne le dit pas, ouais. Ben, on le saura. Au moins.
Pour finir à l'eau.
Ben, au moins après le burger. Ou avant.
C'est ça.
Pareil. Ben, merci Polo, te retrouver à Souex.
Merci beaucoup à vous et moi je vous attends de pied ferme. Pour mes heures d'ouverture à Souex, du mercredi au lundi. Je suis fermé les mardis seulement. Et tous les mercredis, je mets un burger nouveau à la carte.
Voilà. Eh bien parfait, c'est noté.
Voilà.
Et s'il y a des manifestations du style à Boussna qui se bougent un peu les fesses?
Voilà, et puis ils peuvent m'appeler, ou trouver sur ma page. Bon, là je vous montre, mais je ne l'ai pas marqué sur Instagram, mais chez Polo, sur Facebook, sur les réseaux. Vous trouvez mes vidéos de Luc Besson, hors pair. C'est ainsi que mon contact, et voilà.
Eh ben, c'est bon à savoir. Nous, on était plus sur le dernier Spielberg, là, mais...
Vous avez vu les derniers Spielberg?
Ben, il va sortir le 12 juin, je crois, il sort.
Ouais, mais moi, je n'ai sorti un mercredi dernier, de Spielberg, sur la page chez Polo. Allez voir la vidéo, ça vaut le détour.
C'est vrai, ben, on le saura. Ah ben, on ira regarder, ouais, voyons.
Voilà, allez-y, compte sur nous.
Vas-y, ben, c'est noté. Hop. Ouais, pareil. On se demandait si on pouvait avoir un peu des l'historique de du rink hockey à l'époque à Massat.
Entre le rink hockey.
Ah ouais. Oh putain, je sais pas comment te le dire moi. Parce qu'en fait, ça remonte aux années presque 70, quoi.
D'accord. Et t'avais quel âge dans les années 60?
J'étais pas né.
T'étais pas né, d'accord. Ok.
Mais si, ça, c'est un petit peu l'ancien maire, M. Massé,
oui.
Qui avait un petit peu lancé Massé. Ça, qui connaissait ce sport et qui a fait, en fait, une petite équipe, où après, c'est monté assez, quand même assez loin en championnat de France. C'était drôlement bien pour un petit village comme Massat.
Donc c'était une équipe de hockeyeurs sur patin roulette, c'est
voilà,
ça?
Ça s'appelle le rink hockey.
Le rink hockey, d'accord, ok. Okay.
Et après, il y a eu aussi donc, le patinage artistique qui a perduré jusqu'à... il y a eu à peu près une dizaine d'années que ça s'est arrêté avec... Madame Ponsol,
Agnès
et sa mère qui avaient organisé tout ça. Et là aussi, on avait des patineuses... qui était monté jusqu'à un niveau national quoi.
Donc c'était un club donc il y avait
avec un petit club avec des difficultés parce qu'il y avait des difficultés pour s'entraîner l'hiver avec la neige et le climat qu'il y avait autrefois.
D'accord.
Avec des terrains qui n'étaient pas couverts. Et malgré ça, il y avait quand même des bons résultats quoi.
Donc
et ça s'appelait des équipes de Tenius.
D'accord.
Vous avez quand même à côté de vous le meilleur gardien de la région Occitanie à l'époque. Oh. Pierre Piquemal.
D'accord, bravo.
Et voilà. Toi, tu étais joueur aussi?
Non, pas du tout. Si. Ouais, il était joueur.
Très bon attaquant.
Ah, d'accord. Et comment ça se passe? Vous avez des crosses?
On va le montrer après.
Ah, vous allez le montrer?
Oui, le rink hockey, oui, c'est patin, protection pour les coucougnettes, les genoux.
Ok, surtout pour les gardiens.
Pour les personnes qui sont sur le terrain. Ouais. Et après, le gardien, un peu, on va dire, un peu comme comme on voit dans le hockey sur glace.
D'accord, oui.
Vraiment, les protections intégrales, le casque pour le cou, les épaules, le plastron, tout ça.
D'accord.
Les grosses jambières.
D'accord, ok.
Alors, à la base, les règles du jeu, normalement, elles sont assez simples et, on va dire, pas trop viriles.
D'accord.
Mais une fois que le jeu est lancé, c'est l'inverse.
Mais est-ce que ça ressemble au hockey ou pas du tout, le hockey sur glace ou pas
non,
du tout?
Ça n'a rien à voir, en fait. Hein. Déjà, il n'y a pas le même nombre de joueurs.
D'accord.
Il n'y a pas les mêmes possibilités de on va dire, de violence.
D'accord.
Okay. Parce que le hockey sur glace, il y a quand même...
C'est un peu rentre dedans,
quoi. Les mises en échec et tout ça, non, ça n'existe pas au rink hockey. Mais il y a quand même du physique.
D'accord.
Et de la rancœur.
D'accord.
Voilà.
Et après, c'est une balle ou un palais?
Là, c'est une balle, en fait. C'est une balle un peu plus grosse qu'une balle de tennis, en plastique, on va dire. Avec à l'intérieur, il y a du liège.
Ok, ouais.
Et les meilleurs tireurs, ça peut propulser à 150-160 à l'heure.
Ah ouais, quand même.
Ouais, ça semble...
Oui, il faut faire attention, quoi, quand même.
Aussi, ouais. Et,
non, mais après, c'était un jeu assez intéressant et assez original.
Et ça vient d'où, alors
l'origine? Alors, c'est des sports qui sont plutôt pratiqués sur la Bretagne, la Gironde... Et après, là, donc, qui interviennent à niveau national. Et après, il y a des Coupes du Monde.
D'accord.
Et en Espagne.
Ouais.
Espagne-Portugal. Il faut savoir que c'est quand même c'est le second sport après le football.
Ah, ouais.
Donc, c'est réputé, ouais.
Ah, oui. D'accord. Donc là, vous vous retrouvez dans des terrains avec des grillages.
Ouais.
Il y a une hystérie.
D'accord.
Autour des matchs.
Ouais.
Comme on peut vivre, nous, on va dire que dans le sud de la France, ça sera le rugby.
Oui, oui.
Et avec quand même un respect c'est ça qu'il y a aussi. Quand il y a des sports un peu virils comme ça, il y a un respect qui se produit après derrière.
D'accord.
De troisième mi-temps
D'accord,
assez arrosé, assez simple, en fait. Assez arrosé, mais sans dégâts, quoi.
D'accord, ok.
Bon, ouais, voilà.
Ouais. Et ça a duré depuis les années 70 jusqu'à là, jusqu'à il y a 10 ans, quoi.
Ça, nous, on a arrêté, on commence à vieillir, mais on va dire qu'on a arrêté en 2005, à peu près, l'équipe.
Ça date, ouais, quand même.
D'accord.
Et après, bon, malheureusement, c'est vrai que c'est pas forcément un sport attrayant, puisqu'il y a le foot, il y a le rugby,
ouais.
Il y a du handball, il y a Saint-Giron qui développe beaucoup de sports bien connus, comme voilà, le basket aussi. Bon, bon. Et ça, c'est un sport pas forcément bien connu, où il faut avoir aussi des qualités de patinage. Hein.
Aussi, ouais, que tout le monde n'a pas. Ouais,
que tout le monde n'en a pas.
Okay.
Et voilà, donc nous, on avait eu cette chance de commencer avec le patinage artistique.
D'accord.
Donc il faut le savoir. On a commencé avec des tutus.
D'accord.
Et après, bon,
et
à partir d'un certain âge.
C'était faire des figures pareil que sur le patinage sur glace
des saltos, à notre niveau, non, mais il y avait des petits sauts, il y avait des. C'était quand même. C'est quand même après. À un certain niveau, là, comme on fait les filles.
Ouais.
Ah oui, il y a des doubles.
Ouais.
Alors, il faudrait interroger Agnès là pour avoir les bons termes.
Je l'ai vu tout à l'heure. Ah bah si, elle est là.
D'accord.
Mais y a, les filles étaient assez spectaculaires. Quoi.
D'accord.
Elles font deux tours en l'air. C'était. C'était vraiment magnifique.
D'accord.
Elles avaient énormément de mérite. Surtout quand elles se gamellaient.
Ouais.
C'est un peu comme nous. C'était pas un terrain
forcément
approprié aux chutes.
D'accord, ok. Okay.
Là, ça va mieux déjà, ici. Ouais.
Là, ouais, ça va. Là, c'est pour s'amuser.
Et donc,
c'est malheureusement, c'est ce qu'il y a de dommage, c'est qu'il n'y ait pas eu la possibilité de refaire un terrain pour relancer un petit peu ce genre de sport.
D'accord.
Et puis, ouais, on a là. Alors.
Parce qu'il y a eu des sacrées manifestations à Massat, des gros matchs, on peut dire.
Oui.
Ouais, d'accord. Donc, vous avez été champion de France, c'est ça, on m'a dit, non?
Alors, c'était plutôt au niveau du patinage artistique.
D'accord, ok.
Et après, au niveau du ring hockey, c'était dans les deux, troisième, je crois qu'ils avaient fini, le championnat de France.
National.
Ouais.
D'accord. Oui, quand même, ouais. Donc, Massat, classé quand même.
C'est quand même assez bien, quoi.
D'accord.
Ouais, pas mal. Ben, merci en tout cas.
Avec grand plaisir.
Merci pour cette interview.
Commentaire.
Eh ben, le. Et donc vous allez faire une démonstration de ring hockey tout à l'heure ou pas?
Alors, voilà, bon, vu le climat, on va pas trop s'amuser à ça.
D'accord.
Et puis bon, il y avait effectivement pas le terrain.
D'accord, ok.
Mais on va pas pouvoir effectuer ce genre de démonstration. Ouais.
D'accord, ok. Eh bien, merci.
Ah, bonjour.
Bonjour.
Une des dernières participantes
On a interviewé tout à l'heure Séverine qui nous a on y a demandé pourquoi elle, comment c'est venu qu'elle voulait faire du patin sur la halle et tout ça. Et elle nous a raconté toute l'historique justement du patin artistique et du ring hockey.
Voilà.
Donc okay. on a interrogé. Non, j'aime pas ce mot. On a interviewé. Son prénom c'est
Pierre.
Pierre qui nous a parlé du ring hockey et maintenant on t'a, toi Agnès, est-ce que tu pourrais nous parler du patinage
artistique sur roulette,
sur
Massat. Et bien c'est arrivé, mais c'est ma maman qui a importé ça de Bordeaux parce qu'elle est d'origine bordelaise.
D'accord.
Et elle faisait du patinage artistique sur Bordeaux, donc elle a commencé à ouvrir un club, puis monsieur Massé est arrivé. Monsieur Massé,
l'ancien pharmacien,
est arrivé. Lui, il a pris le hockey, ma mère a pris l'artistique. Mais avant de passer au hockey, il venait apprendre à l'artistique à patiner d'abord.
D'accord, et eh bien ouais.
Aussi, ouais.
Et
ouais,
c'est ce que Pierre nous disait, voilà. Si tu veux faire du ring hockey, tu faut avoir un minimum de...
Voilà. Donc il faisait pendant 2-3 ans de l'artistique,
d'accord.
Pouvoir faire marche avant, marche arrière, les croisés, le déplacement, quoi.
D'accord,
Et puis après, nous, l'artistique... on a fait les compétitions dans le Midi-Pyrénées, un championnat de France.
Championnat de France.
Oui, on est allé jusqu'à la Coupe de France.
Et d'accord, et vous étiez combien de... mixte ou c'était plutôt...
C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup... Mais on a eu quelques garçons.
D'accord, qui se sont aventurés.
Jean-François Minetti.
D'accord,
qui a fait du patinage artistique. Son fils aussi, Benoît.
D'accord, ok.
Anaïs.
D'accord.
Oui, qui a patiné à niveau national, d'ailleurs. D'accord. Après, il y a eu plein d'autres.
Donc, on va dire que c'était plus féminin que mixte. Ah,
ben, l'artistique, c'est très long à apprendre.
D'accord, ok.
Voilà, ça demande beaucoup de travail, que le hockey beaucoup moins.
Parce que c'est les mêmes figures qu'en patinage de glace.
Exactement les mêmes figures qu'en patinage à glace. Entre les sauts et les pirouettes, c'est exactement la même chose. À part que chaque patin, au lieu de faire 100 grammes, ils font 1,5 kg à chaque pied. Donc voilà.
Pour les soulever, quoi.
Voilà.
D'accord, d'accord. Et donc, il faut s'entraîner d'abord à soulever les patins.
Voilà, un travail d'équilibre. Le club a marché quand même pendant plus de 45 ans. Hein.
Quand même.
Ah ben oui. Ah oui.
Avec beaucoup d'adhérents, beaucoup de pratiquants.
En 40 ans, on en a eu quelques-uns. Je crois que la première photo qu'on a, elle remonte à 1976. Donc ça devait être dans les 74, 75, quand le club s'est remonté. Voilà.
Ouais. Et pourquoi ça s'est arrêté d'un seul coup? Dites-moi.
Parce qu'il n'y avait plus de patineurs et que je me faisais faire. C'était moi qui entraînais.
Et il n'y avait personne qui ne pouvait pas prendre le relais.
Et c'est du travail. Ouais, et c'était un tiers du bénévolat.
D'accord.
Donc voilà. Les bénévoles de nos jours, on n'en trouve plus.
Voilà. Ah ben si, parce que là, je pense que pour organiser cette fête, il y a des bénévoles.
Et maintenant, c'était deux entraînements par semaine pendant les vacances. Il y avait les compétitions qui se passaient, les spectacles, les compétitions qui étaient toujours sur Toulouse, Midi-Pyrénées, Saint-Gaudens, voilà. Les costumes.
Ça demande un investissement, quoi.
D'accord. Oui, beaucoup d'investissements. Et puis après, on se fatigue.
Et après, comme il me disait Pierre, au niveau de l'entraînement du hockey, il me disait aussi que le fait que vous étiez ici à la montagne avec la neige, vous aviez
pas d'abri.
D'intérieur, vous n'aviez pas d'abri.
Non. Souvent elles faisaient les compétitions, ça faisait un mois qu'elles n'avaient pas mis les patins.
Ah ouais.
Ben oui.
Oui.
Donc,
non mais il n'y avait pas possibilité par exemple d'aller s'entraîner à Toulouse ou d'aller s'entraîner à Saint-Giron ou à...
Alors Saint-Giron on a dû y aller une fois ou deux. Les dernières années Sex me prêtait la salle. Pendant deux ou trois hivers ils nous ont prêté la salle. Puis après ils ont dit non-stop.
Ouais.
Autrement il fallait payer le club.
D'accord, ouais, bien sûr.
Voilà, il fallait louer la salle, c'était pas possible. Donc on faisait là, dès qu'il faisait beau, tout le monde sortait les patins.
Ah ouais, mais ça devait être super.
Quelle époque?
C'était une autre époque.
Ouais, tout à fait, ouais.
Moi j'ai eu même enlevé la neige sur l'ancien terrain de tennis pour pouvoir patiner parce qu'il faisait soleil. Oui,
ah, oui.
C'est vrai, ouais. Pouvoir s'entraîner parce qu'après les compétitions elles finissent au mois de juillet. Il y a la dernière, le championnat de France, c'est mois de juillet.
D'accord.
Donc les entraînements, les compétitions, c'est tout l'hiver.
Ouais, d'accord. C'est ça.
Voilà.
Tout à fait.
Faut le savoir, quand même, le savoir. Ouais. Donc, c'est vrai, faut le savoir. Bah, cool,
et,
merci.
Et toi, t'as patiné longtemps alors?
Eh bien, moi, j'ai commencé quand j'ai eu l'âge de marcher, parce que Agnès était ma nounou.
D'accord.
Donc, du coup, j'ai été mise sur les patins très tôt, et jusqu'à l'âge de 18 ans.
D'accord. Donc, ça fait un certain temps. Hein.
Voilà, ça fait un certain temps, c'est ça.
Et tu as fait des compétitions et tout?
Non, après, moi, j'ai dû faire peut-être une ou deux compétitions. Mais après, moi, de base, j'étais plus là pour m'amuser, pour... en soi, les compétitions, c'était pas trop mon... Voilà.
Comment?
Tout le monde ne faisait pas des compétitions.
D'accord.
Voilà. Et c'était un loisir.
Ouais, c'était un loisir au départ. C'était pas spécialement...
Oui, c'est ça.
Mais vous êtes... quand même allé au championnat de France. Donc il y avait quand même un certain...
Si on veut une émulation, une progression, il faut faire les compétitions.
D'accord, ok.
C'est obligé, c'est comme tout le monde, comme tout sport.
D'accord.
Si on veut progresser,
ouais.
On peut toujours dire qu'on est le meilleur dans son coin.
Oui.
Voilà. Pour compétiter.
Dans son coin.
Voilà. Bah ouais.
Donc on fait ce qu'on peut dans son coin.
Et après, moi, j'ai jamais réussi à faire les pirouettes. J'ai jamais été très bonne là-dedans.
Ouais.
J'étais meilleure dans les sauts. Donc du coup, malheureusement, niveau compétition, c'était assez restreint.
Ouais, parce qu'il fallait faire les deux, quoi.
Là, il faut réussir à tout faire.
Ouais,
il y a les pirouettes, il y a les sauts, il y a tout ce qui est autre, extérieur.
D'accord.
C'est vraiment très global.
D'accord.
Et c'est vrai que c'est assez... On se rend pas compte.
Et donc, puisque c'était pas mixte, vous pouviez pas faire du patinage artistique couple. Alors, est-ce qu'il y avait ou pas?
Oh, il y en a eu. Il y a très très longtemps.
Ah ouais?
Séverine et Arnaud Massé.
Ah ouais?
Ils étaient comme ça. Après, il y a le Jean-François Minetti avec qui patine.
Avec. C'était la. Avec la fille. La fille. Non. Florence, elle patinait, oui, elle patinait, mais en solo. Il y avait. Avec qui patinait? Avec une fille. De l'ancien chauffeur de bus qui avait, je crois que c'était Ford, non, ça remonte à loin, et ça remonte à 45 ans au moins, et c'est
je te dis.
Non, mais après, c'est vrai qu'un couple, non.
Non, puis, parce que ça demande un autre travail aussi. Hein.
En plus.
Ouais.
En plus de l'individuel.
Ouais, il faut arriver.
Donc,
parce que des fois, je regarde le patinage artistique, c'est magnifique ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent faire à deux, quoi.
Ah, c'est de l'art, hein.
Exactement les mêmes choses à roulette. Moi, j'ai assisté à un championnat du monde qui était sur Bordeaux.
Ouais.
Et porté à glace, c'est rien à côté de ce qu'ils font à roulette.
Oui, bien sûr. Mais alors pourquoi, la question me vient là subitement, mais pourquoi ils montrent plus de patinage sur glace que sur roulette? Moi, à la télévision, j'ai jamais vu une compétition de patinage artistique roulette.
Parce que phénomène de finance, les médias, il n'y a pas d'argent en jeu, c'est que des bénévoles.
D'accord.
Voilà, chacun a son matériel, les sponsors, il n'y en a pas.
Mais même aux Jeux Olympiques, je veux dire, il n'y a pas
de Jeux Olympiques en artistique à Roulette.
Ah ouais,
ils sont pas aux Jeux Olympiques.
Non, et pourtant, ils pourraient y être, puisqu'il y a un championnat de France.
On est en concurrence directe avec la glace à ce moment-là.
Ouais, mais la glace, c'est l'hiver.
Oui.
Vous le faites l'été.
Ben oui, mais bon, voilà, une histoire de... Voilà, de...
D'accord. De sous, c'est... D'accord.
Je pense. Avant toute chose, les sponsors, il faut payer les gens qui viennent vous voir. Même des fois, sur certaines compétitions, les médias locaux, régionaux, se déplacent même pas.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Donc,
ça ne pouvait pas être médiatisé autant que le patinage.
Ils ont essayé, ce qui a médiatisé le plus, puisqu'ils font partie de la fédération, c'est le skate.
D'accord,
Les rouleurs de rue, là. Enfin,
oui.
Comment on appelle ça?
Je ne sais même pas. Parce que en plus, ce roller-là, il est différent de ce roller-là. Le roller que tu dis des rues, c'est un roller avec les roues en long.
Ah, mais ils ont les quads aussi, certains.
Ah ouais, je sais pas.
Ah oui,
Et justement, est-ce que tu as pratiqué les deux?
Non, moi j'ai
fait les
quads. Oui, moi j'ai aussi les rollers en ligne.
Ouais.
Mais j'y arrive beaucoup moins que les quads.
Ah, c'est une autre technique.
Oui, ben, ne serait-ce qu'au niveau de l'équilibre, c'est pas pareil. Les freins, ils sont derrière sur les rollers en ligne et les quads, c'est devant.
D'accord.
Donc, ne serait-ce que ça,
d'accord.
C'est pas pareil.
Donc, le geste, il est comme ça et là,
c'est ça.
D'accord.
Ouais.
D'accord.
On n'est pas du tout le même parce que là, ça se rapproche beaucoup du ski. Quart dedans, quart dehors.
D'accord.
Voilà. Il y a des quarts, ça stoppe.
D'accord.
Voilà. Donc, il suffit de l'appui pour prendre les courbes. Voilà. C'est comme un ski.
D'accord.
Hop.
D'accord.
Pour voir le coup.
Vous avez une préférence? Vous préférez les quoi?
Ah oui, non, les quoi?
Ah ouais, d'accord.
Ben, je suis habituée à ça.
D'accord.
En artistique, il y en a qui le font avec des patins à ligne, mais c'est plus compliqué.
D'accord.
Parce que les surfaces sont lisses. Ils sont très lisses parce qu'ils patinent partout sur du bois.
des rues planchées en bois. Il y en a certains, on dirait du marbre, pour que ce soit très très lisse.
D'accord.
Nous, on patinait sur du goudron.
Et voilà. Et oui, c'était
à l'époque.
Voilà.
Et nous, les roues, en fait, c'est des gommes. Et en fonction, on peut des gommes plus ou moins dures, ouais. En fonction des sols.
Ah, il y a ça, c'est super, oui. Ça.
Et donc, du coup, quand on était en compétition, ou ne serait-ce qu'en intérieur, on était obligé de changer les roues parce que c'est pas le même terrain.
Donc, mettre des gommes plus molles, plus...
L'adhérence.
Oh, ouais, pour l'adhérence, d'accord. Donc, dans ton sac, tu te promenais avec ta paire de patins, plus les roues adaptées au sol que tu as.
Tous les patineurs font ça. Voilà.
D'accord.
Tous les patineurs font ça.
D'accord.
Si tu vends les revêtements, il faut changer la gomme. Il faut changer les roues.
D'accord.
Super, ben merci pour les renseignements.
Merci beaucoup.
Merci. Bonne soirée.
Eh bien, oui,
pareil,
merci.
Bonne soirée.
Bonne soirée, merci.
Voilà, bonjour.
Bonjour. Une des dernières participantes
on a interviewé tout à l'heure Séverine qui nous a
on y a demandé pourquoi elle, comment c'est venu qu'elle voulait faire du patin sur la halle et tout ça, et elle nous a raconté toute l'historique justement du patin artistique et du ring hockey.
Voilà.
Donc okay. on a interrogé. Non, j'aime pas ce mot. On a interviewé. Son prénom c'est
Pierre
qui nous a parlé du ring hockey. Et maintenant on t'a, toi Agnès. Est-ce que tu pourrais nous parler du patinage
artistique sur roulette.
Sur
Massat. Et bien c'est arrivé, mais c'est ma maman qui a importé ça de Bordeaux parce qu'elle est d'origine bordelaise. D'accord. Et elle faisait du patinage artistique sur Bordeaux. Donc elle a commencé à ouvrir un club. Puis Monsieur Massé est arrivé. Monsieur Massé,
l'ancien pharmacien,
est arrivé. Lui, il a pris le hockey, ma mère a pris l'artistique. Mais avant de passer au hockey, il venait apprendre à l'artistique à patiner d'abord.
D'accord, c'est ce que Pierre nous disait. Voilà. Si tu veux faire du ring hockey, il faut avoir un minimum de...
Voilà. Donc il faisait pendant 2-3 ans de l'artistique. Pouvoir faire marche avant, marche arrière, les croisés, le déplacement, quoi.
D'accord,
okay. Et puis après, nous, l'artistique... On a fait les compétitions dans le Midi-Pyrénées, championnat de France. Oui, on est allé jusqu'à la Coupe de France.
Et d'accord, et vous étiez combien de... mixte ou c'était plutôt...
C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup... Mais on a eu quelques garçons.
D'accord, qui se sont aventurés.
Jean-François Minetti.
D'accord,
qui a fait du patinage artistique. Son fils aussi, Benoît.
D'accord,
Anaïs.
D'accord.
Qui a patiné à niveau national, d'ailleurs. D'accord. Après, il y a eu plein d'autres.
Donc, dire que c'était plus féminin que mixte.
Bah, l'artistique, c'est très long à apprendre.
D'accord, ok.
Voilà, ça demande beaucoup de travail, que le hockey, beaucoup moins.
Parce que c'est les mêmes figures qu'en patinage de glace.
Exactement les mêmes figures qu'en patinage à glace. Entre les sauts, les pirouettes, c'est exactement la même chose. À part que chaque patin, au lieu de faire 100 grammes, il faut 1,5 kg à chaque pied. Donc voilà.
Il faut les soulever, quoi.
Voilà.
D'accord. Et donc, il faut s'entraîner d'abord à soulever les patins.
Voilà, un travail d'équilibre. Le club a marché quand même pendant plus de 45 ans. Hein.
Quand même.
Oui.
Avec beaucoup d'adhérents, beaucoup de pratiquants.
En 40 ans, on en a eu quelques-uns. Je crois que la première photo qu'on a, elle remonte en 1976. Donc ça devait être aux années 74, 75, quand le club s'est remonté. Voilà.
Ouais. Et pourquoi ça s'est arrêté d'un seul coup? Dites-moi.
Eh bien, parce qu'il n'y avait plus de patineurs et que je me faisais faire. C'était moi qui entraînais.
Et il n'y avait personne qui ne pouvait pas prendre le relais.
Et c'est du travail.
Ouais,
et c'était un tiers du bénévolat.
D'accord.
Donc voilà. Les bénévoles de nos jours, on n'en trouve plus.
Voilà. Oh ben si, parce que là, je pense que pour organiser cette fête, il y a des bénévoles.
Et maintenant, c'était deux entraînements par semaine pendant les vacances. Il y avait les compétitions qui se passaient, les spectacles, les compétitions qui étaient toujours sur Toulouse.
Toulouse, Midi-Pyrénées, Saint-Gaudens, voilà.
Des costumes.
Ça, ça demande un investissement, quoi.
Si ah, on oui. Se... ah oui.
D'accord.
Oui, 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 beaucoup d'investissement. Et puis après, bon, voilà, on se fatigue.
Hein. Et après, comme il me disait Pierre, au niveau de l'entraînement de, du hockey, il me disait aussi que le fait, le temps, le fait que vous étiez ici, à la montagne, avec la neige, vous aviez
pas pareil, de,
d'intérieur, vous n'aviez pas d'abri.
Non, non, non. Souvent, elles faisaient donc, les compétitions, ça faisait un mois qu'elles n'avaient pas mis les patins.
Ah ouais.
Ben oui.
Non, oui, oui, oui.
Donc,
non mais il n'y avait pas possibilité, par exemple, d'aller s'entraîner à Toulouse ou d'aller s'entraîner à Saint-Giron ou à...
Alors, Saint-Giron, on a dû y aller une fois ou deux. Les dernières années, Sex me prêtait la salle. Pendant deux ou trois hivers, ils nous ont prêté la salle. Puis après, ils ont dit non-stop.
Ouais.
Autrement, il fallait payer le club.
D'accord, ouais, 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 bien sûr.
Voilà, il fallait louer la salle, c'est pas possible.
Oh, c'était pas possible.
Donc, on faisait là, dès qu'il faisait beau, tout le monde sortait les patins.
Voilà. Ah ouais, mais ça devait être super.
Quelle époque
c'était une autre époque.
Ouais, bah ouais, tout à fait, ouais. Ouais.
Moi, j'ai eu même à lever la neige sur l'ancien terrain de tennis pour pouvoir patiner parce qu'il faisait soleil.
Oui,
ah, oui.
C'est vrai, ouais.
Ouais,
ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. S'entraîner parce qu'après les compétitions elles finissent au mois de juillet, il y a la dernière, le championnat de France c'est mois de juillet.
D'accord.
Donc les entraînements, les compétitions c'est tout l'hiver.
Ouais d'accord, ouais ouais voilà. C'est... non ouais c'est ça.
Voilà.
Tout à fait.
Faut le savoir, faut le savoir. Ouais. Donc, c'est vrai, faut le savoir, ouais, je dis.
Ouais.
Bah, cool,
et,
merci.
Et toi, t'as patiné longtemps alors?
Eh bien, moi, j'ai commencé quand j'ai eu l'âge de marcher, parce que Agnès était ma nounou.
D'accord.
Donc, du coup, voilà, j'ai été mise sur les patins très tôt, et jusqu'à l'âge de 18 ans.
D'accord,
voilà.
D'accord, d'accord.
Ouais.
Donc, ça fait un...
oui.
Ça fait un certain temps, hein.
Voilà, ça fait un certain temps, c'est voilà. Ça.
Et tu as fait des compétitions et tout?
Non,
et tout.
Après, moi, j'ai dû faire peut-être une ou deux compétitions. Mais après, moi, de base, j'étais plus là pour m'amuser, pour... voilà, en soi, les compétitions, c'était pas trop mon... voilà.
Comment?
Tout le monde ne faisait pas des compétitions.
Voilà. D'accord. Okay.
Voilà. Et c'était un loisir.
Ouais, c'était un loisir au départ. C'était pas spécialement...
Oui, oui, c'est
mais
ça.
Vous êtes quand même allé au championnat de France. Donc, il y avait quand même un certain...
Si on veut une émulation, une progression, il faut faire les compétitions.
D'accord, ok.
C'est okay. Obligé, c'est comme tout le monde, comme tout sport.
D'accord.
Si on veut progresser,
ouais.
On peut toujours dire qu'on est le meilleur dans son coin.
Oui, oui, oui.
Voilà. Pour compétiter.
Dans son coin.
Voilà.
Voilà.
Ben ouais.
Donc, on fait ce qu'on peut dans son coin.
Et après, moi, j'ai jamais réussi à faire les pirouettes. J'ai jamais été très bonne là-dedans.
Ouais.
J'étais meilleure dans les sauts. Donc, du coup, malheureusement, du coup, niveau compétition, c'est assez restreint.
Ouais, parce qu'il fallait faire les deux, quoi.
Il faut réussir à tout faire.
Ouais,
il y a les pirouettes, il y a les sauts, il y a tout ce qui est autre, extérieur.
D'accord.
Non. C'est vraiment très global.
D'accord, d'accord.
Et c'est vrai que c'est assez... on ne se rend pas compte.
Et donc, comme puisque ça, c'était pas mixte, vous ne pouviez pas faire du patinage artistique couple. Alors, est-ce qu'il y avait ou pas?
Oh, il y en a eu. Il y a très très longtemps. C'était
ah ouais?
Séverine et Arnaud Massé.
Ah ouais?
Ils étaient comme ça. Après, il y a le Jean-François Minetti avec qui patine. Avec. Ah, c'était la. Et avec la fille. La fille. Non. Florence, elle patinait, oui, elle patinait, mais en solo. Il y avait. Avec qui patinait? Avec une fille. De l'ancien chauffeur de bus qui avait, je crois que c'était Forgue, non, ça remonte à loin, et ça remonte à 45 ans au moins, et c'est que je te dis. Non, mais après, c'est vrai qu'un couple, non.
Non, puis, parce que ça demande un autre travail aussi. Hein.
En plus,
ouais.
En plus de l'individuel.
Il faut arriver.
Donc,
parce que des fois, je regarde le patinage artistique, c'est magnifique ce qu'ils peuvent faire à deux. Quoi.
Ah, c'est de l'art. Hein.
Exactement les mêmes choses à roulette. Moi, j'ai assisté à un championnat du monde qui était sur Bordeaux.
Ouais.
Et porter à glace, c'est rien à côté de ce qu'ils font à roulette.
Oui, bien sûr. Mais alors pourquoi, la question me vient là subitement, mais pourquoi ils montrent plus de patinage sur glace que sur roulette? Moi, à la télévision, je n'ai jamais vu une compétition de patinage
artistique roulette. Parce que phénomène de finance.
les médias. Il n'y a pas d'argent en jeu, d'accord, c'est que des bénévoles. D'accord. Voilà, chacun a son matériel, les sponsors, il n'y en a pas.
Mais même aux Jeux Olympiques, je veux dire, il n'y
a pas... Il n'y a pas de Jeux Olympiques en artistique à Roberto.
Ah ouais,
ils sont pas aux Jeux Olympiques.
Non, et pourtant, ils pourraient y être, puisqu'il y a un championnat de France.
On est en concurrence directe avec la glace à ce moment-là.
Ouais, mais la glace, c'est l'hiver. Oui. Vous le faites l'été.
Ben oui, mais bon, voilà, une histoire de... Voilà,
D'accord. De sous, c'est... D'accord.
Je pense. Avant d'accord. toute chose, les sponsors, il faut payer les gens qui viennent vous voir. Même des fois, sur certaines compétitions, les médias locaux, régionaux, se déplacent même pas.
D'accord. Voilà. D'accord. Donc ça pouvait pas être médiatisé autant que le patinage.
Ils ont essayé, ce qui a médiatisé le plus, puisqu'ils sont partis de la fédération, c'est le skate.
D'accord, ouais.
Le roller de rue, là. Enfin,
oui.
Comment on appelle ça?
Je sais pas, je sais même pas. Parce que en plus, ce roller là, il est différent de ce roller là. Le roller que tu dis des rues, c'est un roller avec les roues en long.
Ah, mais ils ont les quads aussi, certains.
Ah, ouais, j'ai pas.
Si.
Et justement, est-ce que tu as pratiqué les deux?
Non, moi
c'est toi.
Oui, moi j'ai aussi les rollers en ligne.
Ouais.
Mais j'y arrive beaucoup moins.
Ah, c'est une autre technique.
Oui, ne serait-ce qu'au niveau de l'équilibre, c'est pas pareil. Les freins, ils sont derrière sur les rollers en ligne et les quads, c'est devant.
D'accord.
Donc ne serait-ce que ça, c'est
d'accord.
pas pareil.
Donc ouais, le geste, il est comme ça et là.
Voilà, c'est ça. D'accord.
Ouais. D'accord.
L'équilibre n'est pas du tout le même parce que là, ça se rapproche beaucoup du ski. Quart dedans, quart dehors.
D'accord.
Voilà, il y a des quarts, ça stoppe.
D'accord.
Voilà, donc il suffit de la pluie et on peut prendre les courbes. Voilà. C'est comme un ski.
D'accord.
Hop.
D'accord. Pour voir le coup. Vous avez une préférence? Vous préférez les quoi?
Ah oui, non, les quoi.
Ah ouais, d'accord.
Ben, je suis habitué à ça.
D'accord.
En artistique, il y en a qui le font avec des patins à ligne, mais c'est plus compliqué.
D'accord.
Parce que les surfaces sont lisses. Ils sont très lisses parce qu'ils patinent partout sur du bois, et du plancher en bois. Il y en a certains, on dirait du marbre, il faut que ce soit très très lisse.
D'accord.
Nous, on patine sur du goudron.
Et voilà. Et oui, c'était
à l'époque.
Voilà. Et nous, les roues, en fait, c'est des gommes, et en fonction, on peut des gommes plus ou moins dures, ouais. En fonction des sols.
Ah, il y a ça, c'est super, oui. Ça.
Et donc, du coup, quand on était en compétition, ou ne serait-ce qu'en intérieur, on était obligé de changer les roues, parce que c'est pas le même terrain.
Donc, mettre des gommes plus molles, plus...
L'adhérence.
Oh, ouais, pour l'adhérence, d'accord. Donc, dans ton sac, tu te promenais avec ta paire de patins, plus les roues adaptées au sol que
tous les patineurs font ça. Voilà.
D'accord.
Tous les patineurs font ça.
D'accord.
Suivant les revêtements, il faut changer les roues.
D'accord.
Voilà. Super, merci pour les renseignements.
Merci beaucoup.
Plaisir. Bonne soirée.
Eh bien, oui,
pareil,
merci.
Bonne soirée.
Bonne soirée, merci. Et... prendre un peu la température là sur la halle.
Ouais.
Et c'est une bonne température.
C'est sympathique. Hein.
Ah ouais.
Bah ouais, les gens ont l'air contents de chausser les rollers, de rouler.
Et donc c'est nous qui organisons cette soirée.
Non, alors c'est pas nous qui organisons ça, c'est le comité des fêtes de Massade qui l'organise et qui nous invite à venir avec le matériel qu'on a, les rollers, pour faire participer aux gens à pouvoir patiner et tout ça.
Donc vous êtes qui? Tu peux te présenter un peu, à présenter l'association?
Bien sûr, nous on est une association sur Toulouse.
D'accord.
Où on a un stock de patins assez important, on a 250 paires de patins de toute taille, on va dire, de toute pointure. Et du coup, on a un fourgon et on se déplace là où on nous invite à venir. C'est-à-dire comme Massade par exemple. Moyennant un petit truc parce que nous sommes une association, donc pas du tout dans les pratiques. Et voilà, on vient là pour animer les soirées là où on nous invite. Hier, on était à la Bastide de Céroux. Aujourd'hui, on est à Massat. Dans deux semaines, on est à Cardeillac.
Donc ça s'enchaîne, c'est bien pour
exactement.
Vous.
Exactement. Et on est tous bénévoles, on a entre 50 et 60 balais.
D'accord,
c'est pas des combien
de bénévoles?
Là, on est 5, on est une douzaine, on va dire, le groupe entier.
Ouais.
Et Et voilà, on est tous des fanats du roller, on n'a jamais lâché ça, et voilà, c'est pour ça qu'on continue.
Donc là, tu me dis que ça s'enchaîne parce qu'on arrive sur les beaux jours.
Exactement.
Et quand c'est les jours d'hiver, par exemple, est-ce que ça s'enchaîne pareil?
Alors là, c'est différent. On a une autre pratique, c'est qu'on a une salle de roller à Toulouse. Donc là, on prive un peu l'Ariège parce qu'on ne se déplace plus.
D'accord.
Mais quand il fait mauvais,
ouais,
on est dans une salle de roller, donc dans une salle qu'on loue. D'accord. Pour faire la même pratique de roller.
D'accord. Et c'est loué, c'est exprès pour faire du roller,
non,
la salle.
Non, c'est un collectif qui loue la salle à d'autres associations.
D'accord.
Dont on en fait partie.
D'accord.
Donc c'est un planning et on choisit le créneau que l'on veut.
Ok, voilà. mais c'est incroyable ça.
C'est super. Là, cette année, on a fermé du coup l'année fin mai. Parce qu'en juin, il fait bon, on peut patiner dehors.
Oui, oui, bien sûr.
Et depuis début juin, on enchaîne les prestations, on va dire, roller.
Et tout à l'heure, tu m'as dit combien de patins vous aviez ?
On a un stock de 250 paires.
Et comment vous arrivez à avoir un stock comme ça ? Où c'est que vous récupérez tous ces patins ?
L'association, elle a 31 ans.
D'accord.
Elle est née en 1995 à Toulouse. Et depuis 31 ans, on achète des paires de patins. Sur le Bon Coin, dans des vide-greniers, etc. Et après, on monte des ateliers pour les arranger, les bricoler, les changer. Et c'est comme ça qu'en 30 ans, on va dire, on a eu 250 paires.
Putain, pas mal.
Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix.
C'est gratuit, vous faites ça gratuitement.
Nous, on est bénévoles. Une association se doit d'être bénévole. Nous, on fait ça parce qu'on aime ça. Voilà.
Voilà. Les gens aussi.
Voilà. Après, on se déplace toujours moyennant un truc, comme j'ai dit avant, parce qu'il faut faire fonctionner une association.
D'accord.
Toujours pareil, ouais,
oui. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, tu me disais que t'aimes ça, mais alors tu fais du patin, tu fais.
Regarde.
Ouais.
Je suis chaussé de roller. Je te présente mes enfants, ils ont 30 ans.
30 ans.
C'est pas ma première paire, mais ceux-là, ils ont 30 ans. Ils sont plus vieux que mes gosses.
Ah ouais.
Impressionnant. Ouais,
mais t'as connu comment c'est le patin ou le roller? Parce que là, on me dit deux mots. C'est le patin ou le roller?
Le patin, c'est un mot français. Le roller, c'est un mot anglais.
D'accord, ok.
Donc, c'est une traduction. Après, ouais. ça s'appelle en anglais, ça s'appelle les quads.
D'accord.
Et les autres, ça s'appelle des lignes, des blades.
Ouais, d'accord.
Voilà.
Ok.
D'accord. Ça reste de la roulade, ça reste de la roulette. C'est toujours le fun, c'est toujours pour s'amuser. Que ça soit.
Ouais.
Que ça soit le patin, que ça soit.
D'accord. Voilà. Donc ça veut dire, comme là j'ai discuté avec une personne tout à l'heure qui faisait du patinage artistique sur quad et qui faisait de la compétition. Toi, ça a jamais été ton but
Non, de la compète, j'en ai pas fait. Non. Je me suis toujours amusé dans les rues. À se faire courser après les flics, des choses comme ça. C'est très sympathique.
Oui, ça va plus vite.
Au bus, ouais.
Ouais, d'accord. Ouais, super. Donc, voilà, c'est bien urbain, quoi.
Complètement.
Ouais.
Ça dépend des villes où tu es. Là, d'accord. Sur Toulouse, c'est ce style de bottines.
D'accord.
Si on aurait été sur Paris, par exemple, ça aurait été plutôt des tennis.
Donc, c'est un mode. D'accord, chaque ville.
Chaque ville a son, dress code, on va dire.
D'accord, intéressant. Et parfois, vous faites des rencontres entre villes, justement, de dress code?
Non, justement, c'est dommage, ça n'a jamais eu lieu. Non, ça n'a jamais eu lieu, ça.
D'accord.
Après, il y a les gros festivals de roller européens.
D'accord.
Et il y en a un qui est très connu, c'est à Barcelone, c'est tous les ans. Et là, tu as tout pays confondu européen qui viennent patiner. Tu as des milliers de patineurs d'un talent. Excellent,
et voilà. Tout. Ah ouais.
Là, t'en prends plein les yeux, c'est chouette.
Et comment il s'appelle ce festival? Tu connais son nom ou...
C'est le festival Roller Love Roller.
D'accord.
Tu tapes Barcelone Festival Roller.
D'accord, on va
dessus.
Tomber de,
ouais,
dessus.
Il est connu, c'est le plus gros d'Europe.
Ouais, super. Donc là, demain, vous partez sur un autre lieu là.
Non, là, on va se reposer. On est parti vendredi de la maison.
Ah oui, quand même.
Je te rappelle, on a plus de 50 balais, on a tous une vie.
Il faut arrêter.
Là, on va rentrer, on va se reposer pendant une semaine.
Tu dis que tu as 50 balais et tout. Est-ce qu'il y a de la relève derrière? Est-ce que...
Ouais, il y a de la jeunesse. Ouais. C'est différent, c'est... avec d'autres idées, mais c'est pas plus mal. Ça enrichit un peu le patin.
Bien sûr.
Ça évolue, c'est chouette. Mais il y a de la relève.
Ah, oh, super.
Regarde, la relève, elle est là, regarde.
Bah ouais.
Ça patine tant que ça peut.
Des genoux, là, qui patinent, c'est chouette.
Ouais, c'est chouette de voir ça. Ouais, tout à fait.
Et là où on passe, on donne de la joie, les gens sont contents, ils sont heureux d'être remontés sur des patins.
Ouais, ça compte. Ouais. Voilà.
Ben moi, je disais, moi, j'ai jamais connu ça, parce que j'ai un certain âge. Moi, c'était vraiment les patins à roulettes avec les lanières encore, tu vois.
Ok, bien sûr.
Tu sais que tu as grandissé en fonction de ton pied avec des clés. Tu sais,
Ben, je pense qu'on est de la même génération.
Ouais. C'est mieux tout ça.
On a tous connu ça. On n'a pas connu les roues en fer. Les roues
non,
en ferraille.
Non. C'était pas encore
ça, c'est nos grands-pères.
Ouais, c'était encore après. On ne va pas exagérer quand même. Bon, ben, merci. C'est comment ton prénom ?
Charles.
Et l'association s'appelle ?
Elle s'appelle Mettez Patins.
Mettez Patins.
MTP. Mettez Patins.
Ouais, MTP, yes.
Merci
pas mal.
Avec plaisir, les gars. Bonne continuation.
Ouais, pareil, hein, merci.
Cool. Bonne soirée.
Ciao.
Putain, là on est renseigné. Ouais. On est renseigné. Oh, oh là. Yeah. Ah ouais, ça glisse là. Ouais, c'est, oh là, attention. Oh, yeah. Faut faire gaffe. Hein. Là, ça glisse. Hein.
Chocolat pour Corinne.
Vas-y, ouais, ça marche. Ben, sur ces belles paroles, on va pouvoir arrêter peut-être l'enregistrement, tout, et puis dire voilà, bonne soirée aux patineurs.
Ben ouais, c'est super de voir de la joie comme ça sur les visages
des jeunes, des vieux, jeunes, ouais, il y en a, ça leur plaît, il y en a.
Des filles, des garçons et tout, c'est super. Tout le monde s'éclate. Ben voilà, ça a été une très bonne journée de comme une fréquence, hein.
Enregistrement, voilà,
transhumance, ambiance patin,
patin ambiance,
ambiance, c'est super. On est sur comme une fréquence, et pour ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui à la transhumance
ni au patin,
j'espère que on a pu vous retransmettre un peu tous ces événements un peu chez vous.
Voilà ce qui se passe ici.
Ce qui se passe ici. Et j'espère que vous nous ferez des retours sur ces manifestations qu'on a couvertes avec Marius. Bravo, voilà. Marius.
Et Eric ici présent aussi.
Et un peu Gilles qui a participé un peu cet après-midi.
Aussi, c'est vrai.
Et entrer dans la danse avec comme une fréquence.
Voilà,
à bientôt pour un prochain live.